des principes bibliques pour la santé. Dr. Douglas Winnell. Jésus a-t-il aboli les lois bibliques pour la santé? Qu'a découvert la science moderne à leur sujet? Et sont-elles toujours en vigueur de nos jours? À propos de l'auteur et de cette brochure, Douglas Winnell est titulaire d'un doctorat en anatomie et médecine préventive obtenu à la faculté de médecine de l'Université du Mississippi, ainsi que d'un master en nutrition, éducation sanitaire et santé internationale obtenu à la faculté de santé publique de l'Université de Loma Linda en Californie. Il est évangéliste dans l'Église du Dieu vivant et il travaille au siège central à Charlotte, aux États-Unis, en tant que directeur de l'administration de l'Église en lien avec les ministres à travers le monde. Les informations présentées dans cette brochure ne remplacent pas une consultation en direct avec un professionnel de la santé. Cependant, bien que la Bible soit négligée depuis longtemps, elle est un manuel de référence pour la santé et la nutrition. Dr. Winnell a consacré une grande partie de sa vie à éduquer le public au sujet de la sagesse qu'elle contient. Ces 40 dernières années, il a enseigné la santé et le bien-être dans plusieurs facultés et universités, et une grande partie de cette expérience se retrouve dans cette brochure. Nous espérons que cet ouvrage vous encouragera à commencer à inclure la parole de Dieu dans vos décisions personnelles au sujet de la santé, de la diététique et de votre mode de vie. Cette brochure n'est pas à vendre, elle est envoyée gratuitement sur simple demande à titre de service éducatif rendu au public. Édition 1.0, septembre 2020. Titre original, Biblical Principles of Health. Living, Church of God, tout droit réservé. Table des matières. Préface, page 5. Chapitre 1, une malédiction ancestrale, page 7. Chapitre 2, voulez-vous vraiment manger cela, page 15. Chapitre 3, un corps conçu pour bouger, page 31. Chapitre 4, vaincre les maladies infectieuses, page 39. Chapitre 5, les dimensions spirituelles de la santé mentale, page 51. Chapitre 6, un Dieu de miracles, page 61. Conclusion, page 69. Préface. Des choix et des conséquences. Comment abordons-nous la santé? Une bonne santé repose-t-elle sur la chance? Ou bien est-il possible de prendre des décisions qui peuvent améliorer la qualité de votre vie, voire la prolonger? Dans les premiers chapitres du livre de la Genèse, nous lisons que Dieu planta de nombreux arbres pour Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Cependant, il attira leur attention sur deux arbres en particulier. Ceux-ci symbolisaient deux modes de vie bien différents, Genèse 2, verset 9, ayant la capacité d'influencer profondément l'ensemble de l'histoire humaine. Nous lisons que Dieu laissa le choix à Adam et Ève entre ces deux modes de vie, Genèse 2, versets 16 et 17. Malheureusement, sous l'influence de Satan, ils prirent une décision fatidique qui allait avoir de profondes répercussions et des conséquences durables. L'arbre de la vie représentait l'obéissance à Dieu et à son mode de vie, qui est le fondement des lois et des instructions présentes dans la Bible. En choisissant cette option, les résultats sont des bénédictions de toutes sortes. L'arbre de la connaissance du bien et du mal représente le choix de l'humanité de suivre des raisonnements charnels sans tenir compte des instructions divines. Adam et Ève choisirent le deuxième arbre en rejetant le mode de vie divin pour choisir une voie conduisant à la douleur, la souffrance et la maladie. Des conséquences inévitables lorsque les êtres humains acceptent l'influence mortelle de Satan. En s'adressant aux Israélites avant leur entrée en terre promise, Moïse mit également l'accent sur ce choix en déclarant « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de là dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. » Deutéronome 30, versets 19 et 20. Le mode de vie divin implique d'obéir aux lois et aux instructions qu'il renferme. Mais Moïse avertit aussi que le fait d'ignorer les instructions divines ou d'y désobéir provoquerait la souffrance et la mort. Malheureusement, les Israélites choisirent la voie provoquant des conséquences négatives, dont les maladies. À travers les Écritures, nous voyons sans cesse la mise en opposition de deux modes de vie bien différents. Le roi David a écrit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » Psaume 1, versets 1 et 2. De la même manière, le roi Salomon a déclaré « La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Proverbe 1, verset 7. Il écrivit encore « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Proverbe 14, verset 12. Jésus-Christ enseigna à ses disciples que la plupart des gens choisissent la voie spacieuse qui mène à la souffrance, mais que peu trouvent la voie étroite qui mène à la vie. Matthieu 7, verset 13 et 14. Comme vous le découvrirez dans cette brochure, la Bible et l'histoire humaine attestent une vérité fondamentale concernant la santé physique. Les êtres humains ont choisi une approche inadéquate en matière de santé et de maladie, à l'opposé de ce que Dieu avait initialement prévu pour nous. Ce que vous allez lire pourrait bien vous surprendre. Cependant, en commençant à comprendre et à mettre en pratique les principes simples mais efficaces énoncés dans la Bible et que nous allons développer dans cette brochure, vous vous engagerez dans une voie qui pourrait vous procurer plusieurs années supplémentaires de vie et ajouter de la vie à vos années. Bien entendu, Dieu ne promet à personne une santé parfaite pendant cette vie, qui n'est qu'une existence temporaire. Hébreux 9 au verset 27, voire aussi Ecclésiaste 9 au verset 10. En fait, les causes de nombreuses maladies et blessures dans ce monde dépendent de la désobéissance des autres et nous n'avons aucun contrôle sur ce facteur. Alors que le monde rejette de plus en plus le mode de vie divin, il semble que même l'environnement commence à se tourner contre nous. Cependant, dans la Bible, Dieu nous donne des principes puissants qui ont le potentiel d'avoir un impact réel sur la qualité de notre santé et sur tous les aspects de notre vie. En découvrant l'approche biblique en matière de santé et en la mettant en pratique pour vous-même, vous vous préparerez pour un avenir passionnant et stimulant qui changera bientôt le monde entier. Chapitre 1. La maladie. Une malédiction ancestrale. Pourquoi les maladies sont-elles si persistantes et omniprésentes au cours de l'histoire humaine? Lorsque nous examinons comment les différentes civilisations ont abordé la santé et la maladie, des leçons importantes se dessinent. Du point de vue de la santé publique, l'histoire humaine raconte une lutte permanente contre la maladie. Les momies de l'Égypte antique et les textes médicaux datant de l'époque des pharaons révèlent que les Égyptiens souffraient déjà des mêmes maladies qui affectent les gens de nos jours. L'asthme, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les varices, l'épilepsie, la cécité, le scorbut, l'hépatite, la peste bubonique et une grande variété de maladies parasitaires. Bien que les civilisations antiques aient possédé un grand nombre de prêtres médecins, elles n'ont jamais réussi à éliminer la menace permanente de la maladie. Quelles sont les raisons de cet échec? Cela venait-il du fait qu'elles ne possédaient pas les informations scientifiques et les technologies modernes, ou cela venait-il de leur approche en matière de santé et de maladie? Malheureusement, les choses n'ont pas beaucoup changé de nos jours. Les pays dépensent des milliards pour la santé et la science médicale a fait d'énormes avancées en identifiant la cause de nombreuses maladies et en développant même des remèdes miracles pour traiter des maladies autrefois létales. Mais les conséquences tragiques de la maladie et de la souffrance planent toujours comme une ombre sinistre au-dessus de notre monde moderne. Nous avons déclaré la guerre au cancer, au diabète et aux maladies cardiovasculaires qui restent pourtant parmi les plus grandes causes de mortalité. La médecine moderne a déployé des efforts immenses pour éradiquer le paludisme, une maladie qui avait contribué au déclin de l'Empire romain. Mais cette maladie revient avec force de nos jours. La tuberculose, que l'on pensait être pratiquement éradiquée dans les pays développés, se répand à nouveau suite au mouvement de population en provenance de régions moins développées de la planète. Malgré des efforts colossaux contre le fléau du sida, syndrome d'immunodéficience acquise, cette maladie continue de ravager des nations et de détruire des vies à travers le monde. Les maladies parasitaires affectent toujours des millions de gens. quelque chose nous a-t-il échappé? Existe-t-il une autre voie que nous n'avons pas prise, une voie conduisant vers un avenir plus sain dans notre lutte pour vaincre le fléau de la maladie? Des substances et des superstitions. En étudiant des milliers d'années d'histoire médicale, un thème frappant se détache, ainsi qu'un contraste saisissant. La plupart des sociétés humaines ont suivi une approche similaire pour gérer le problème de la maladie. Au lieu de changer les comportements qui provoquent les maladies, les gens invoquèrent leurs dieux ou ils cherchèrent à les apaiser au moyen de cérémonies superstitieuses, de sacrifices et d'offrandes. La plupart des civilisations antiques ont également laissé des listes exhaustives de substances utilisées pour traiter les maladies. Des textes anciens contiennent les détails de procédures chirurgicales pour traiter différentes pathologies, ainsi que des sorts employés par des sorciers pour chasser les maladies. Généralement, la connaissance des traitements médicaux était exclusivement gardée parmi les prêtres médecins, rendant le citoyen moyen dépendant de la prêtrise pour gérer la maladie. Dans l'Amérique antique, cette connaissance secrète était souvent passée de père en fils au sein de la prêtrise. En Égypte, la connaissance médicale était préservée et transmise dans des écoles associées au temple. La pratique de l'embaumement des morts donna aux médecins égyptiens une immense connaissance de l'anatomie humaine. Dans les écrits du poète grec Homère, vers 850 avant Jésus-Christ, le médecin égyptien est qualifié de savant supérieur à tous les hommes, ce qui explique nettement la supériorité de la médecine égyptienne sur toutes les autres médecines. L'historien grec Hérodote, vers 450 avant Jésus-Christ, nota que l'Égypte regorgeait de médecins et que chacun d'entre eux se spécialisait dans le traitement d'une maladie spécifique, les yeux, les dents, l'estomac et les autres parties du corps. Une étude comparative des civilisations antiques à travers le monde révèle qu'en plus des pratiques superstitieuses dirigées vers des dieux censés guérir, comme le fait de se coucher dans un temple ou de porter des amulettes, presque toutes les sociétés suivaient une approche basée sur le traitement de la maladie au moyen de drogues et de chirurgie. Aucune de ces sociétés disparues n'a réussi à éliminer la malédiction de la maladie à travers cette approche. Pourtant, nos systèmes de santé modernes sont toujours dominés par cette même tendance, des systèmes qui deviennent démesurément coûteux et qui sont au bord de l'asphyxie, alors que la malédiction de la maladie continue à se répandre à travers le monde. Bien que nous soyons assurément reconnaissants pour les capacités de la médecine moderne à soigner les maladies, se pourrait-il que nous ayons ignoré une autre dimension importante? Promouvoir la santé et prévenir les maladies dans l'ancien Israël. L'histoire offre un contraste saisissant avec l'exemple d'une nation qui a reçu une approche très différente pour gérer la santé et la maladie. Il s'agit de l'exemple des Hébreux et de la nation de l'ancien Israël, rapporté principalement dans les écrits de Moïse, bien que des principes connexes et additionnels soient présents dans le reste de la Bible. Par rapport à leurs voisins et aux autres civilisations du monde antique, les écrits bibliques et inspirés des Hébreux ne contiennent pas des listes exhaustives de drogues et de substances, ni les détails de procédures chirurgicales pour soigner les maladies. En revanche, la Bible nous donne des principes fondamentaux dont les scientifiques médicaux actuels commencent à comprendre qu'ils peuvent jouer un rôle très important pour promouvoir la santé et prévenir les maladies. Au fil des époques, plusieurs observateurs ont reconnu le but et les bénéfices de ces directives bibliques. Un érudit a noté que la plupart des lois bibliques sont clairement orientées vers la santé publique. Les lois ont été formidablement conçues par Dieu pour la santé générale de la nation. De plus, contrairement aux cultures environnantes, le sacerdoce hébraïque ne conservait pas ses principes fondamentaux en tant que connaissance secrète. Au contraire, Dieu leur dit de disséminer cette information essentielle et de faire en sorte que ces principes fondamentaux soient connus de tous en enseignant au peuple comment éviter la malédiction de la maladie et comment vivre une vie saine. Les sacrificateurs Israélites devaient se focaliser sur l'éducation et la prévention, pas sur les traitements médicaux a posteriori. Contrairement à leurs prédécesseurs égyptiens, ils évitaient les pratiques médicales et ils se concentraient sur l'observance de lois sanitaires concernant la nourriture, l'hygiène et la quarantaine. Comme les historiens médicaux l'admettent sans embâge, Moïse reconnaissait que le principe fondamental de prévenir les maladies était généralement plus simple et invariablement d'une portée beaucoup plus grande que le traitement de la maladie elle-même. Moïse a aussi été qualifié de plus grand ingénieur sanitaire que le monde ait jamais vu, et les règles de santé publique qu'il a compilées dans Lévitique pourraient être résumées par les moyens d'hygiène actuels, une nourriture pure, une eau pure, une air pure, un corps pur et un logement pur. La Bible rapporte aussi que Dieu révéla son mode de vie à l'ancien Israël, afin que les Hébreux soient une lumière et un exemple pour le monde. Voir Deutéronome 4, versets 1 à 10. Dieu souhaitait que les autres nations voient la réussite des Israélites afin de les inciter à suivre leur exemple. Il ne voulait pas que ces lois soient exclusivement en vigueur en Israël. Leur but était d'être partagés avec le monde afin que les autres nations et les autres peuples puissent aussi bénéficier de ce mode de vie donné par Dieu. Les écrits de Moïse et d'autres principes bibliques que nous aborderons esquissent une approche différente et très concrète en termes de santé et de maladies. L'approche biblique se focalise sur l'éducation, prévenir les maladies et promouvoir activement la santé, de compiler des remèdes et des traitements. Des lois sanitaires anciennes et un dilemme moderne. Les lois et les instructions bibliques en matière de santé présentent un dilemme intéressant pour tous ceux qui croient au besoin de suivre les enseignements bibliques. La Bible dit clairement que certains aliments ne doivent pas être consommés et que certains comportements impies sont une abomination aux yeux de Dieu. Cependant, de nombreux théologiens se disant chrétiens ont proclamé depuis des siècles que ces lois étaient des restrictions pénibles uniquement applicables aux Juifs et que Jésus était venu les abolir une fois pour toutes. Ces détracteurs rejettent ces anciennes lois en les qualifiant de démodées et de bizarres, voire de barbares et assurément obsolètes pour les chrétiens. Cependant, ceux qui lisent attentivement la Bible pourraient trouver étrange que Dieu ait ordonné à son peuple élu de suivre ses lois et ses instructions pour leur bien. Deutéronome 10 au verset 13, puis d'envoyer Jésus-Christ afin d'abolir ces mêmes lois et instructions qui seraient devenues inutiles. Toute personne avec un peu de bon sens trouverait cela incongru. Beaucoup de principes bibliques en matière de santé sont présents au sein de la loi et des ordonnances divinement inspirées qui sont souvent qualifiées de lois mosaïques. Des principes qui ont fait l'objet de nombreux débats et spéculations dans les milieux théologiques quant à leur origine et leur but. Certains érudits pensent que Moïse a simplement compilé des interdictions primitives issues des nations environnantes pour en former un code législatif. D'autres prétendent que le choix des aliments purs, propres à la consommation humaine, et impurs, impropres à la consommation humaine, fut purement arbitraire, irrationnel et inexplicable. Certains spéculent que les animaux impurs étaient les individus imparfaits de leur espèce. Mais si vous dites cela à un porc, vous n'obtiendrez probablement qu'un grognement de dégoût en retour. Certains théologiens pensent à tort que les lois sanitaires bibliques n'ont rien à voir avec la santé, mais qu'elles étaient plutôt des rituels destinés à séparer les Israélites de leurs voisins païens et que les Juifs sont les seuls à devoir encore les observer de nos jours. Ils pensent parfois que ces lois ne sont que des reliques du service dans le temple et qu'elles sont obsolètes de nos jours. Mais toute cette tentative pour expliquer ou pour renier les lois sanitaires bibliques sont totalement inadéquates et elles ignorent les faits et les observations historiques, scientifiques et bibliques qui appuient des conclusions bien différentes. Il est très instructif de lire ce que des ouvrages de référence objectifs déclarent au sujet des lois bibliques pour la santé. Le manuel biblique de Halley déclare que la loi mosaïque, dont ses règles sur la santé et l'alimentation étaient d'une part plus pures, plus rationnelles, plus humaines et plus démocratiques. D'autre part, elle faisait preuve d'une sagesse plus avancée que les anciennes législations babyloniennes, égyptiennes ou autres. Le manuel biblique d'Hermans affirme que de nos jours, nous sommes davantage capables de comprendre et d'apprécier les principes saints de diététique, d'hygiène et de médecine que ces lois expriment. En parlant de Lévitique 11, le commentaire biblique expositor mentionne que les lois lévitiques de pureté n'ont aucun parallèle d'envergure dans les cultures environnantes. C'est pourquoi l'idée que Moïse aurait emprunté des interdictions primitives ne tient pas la route, car les cultures environnantes ne contiennent pratiquement pas cette sorte de loi. Ce sont des déclarations saisissantes. Bien que certains érudits affirment faussement que Dieu donna les lois bibliques de la santé pour des raisons rituelles et cérémonielles et non pour des raisons sanitaires, le commentaire biblique expositor déclare correctement que les raisons spirituelles et hygiéniques des lois sont encore d'actualité. Elles sont particulièrement valables dans le domaine de la santé publique et elles protégèrent Israël d'une mauvaise alimentation, des animaux nocifs et des maladies transmissibles. Ces règles de base furent données par Dieu dans sa sagesse à un peuple qui ne pouvait pas comprendre la raison de ces dispositions. Le fait d'affirmer que ces lois sanitaires bibliques sont obsolètes, démodées, irrationnelles et qu'elles n'ont rien à voir avec la santé est un non-sens, sans aucun fondement biblique ou scientifique. Apprendre du potentiel et de l'échec d'Israël. Pourquoi Dieu a-t-il mentionné des lois sanitaires physiques dans la Bible, qui est un livre de religion et non un manuel de médecine? Lorsque Dieu fit sortir les Israélites de la captivité en Égypte, il leur donna des lois, des commandements et des ordonnances qui leur permettraient d'entrer dans une relation avec lui et d'être bénis plus que tous les autres peuples sur terre. Deutéronome 7 au verset 14. Ces lois incluaient les règles de base en matière de santé conçues pour leur bien. Comme nous le verrons, les Écritures révèlent clairement que la bonne santé est le résultat de l'apprentissage et de l'obéissance aux lois et aux principes physiques conçus par Dieu pour promouvoir la santé et aider à prévenir les maladies. Dans la Bible, la maladie est la conséquence du fait de se détourner de Dieu, d'ignorer, de désobéir à ses lois et ses principes fondamentaux. Toute société qui comprend cela et qui obéit à ses lois sera une société en meilleure santé. Dieu déclara clairement aux Israélites, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Exode 15, verset 26. La même instruction se retrouve dans Exode 23, versets 22 à 25. Lorsque Dieu déclara à Israël, parmi d'autres bénédictions liées à l'obéissance, « J'éloignerai la maladie du milieu de toi », verset 25. Dieu dit encore à Israël, « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues. » Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Deutéronome 7 au verset 12 et 15. Bien qu'il y ait assurément un facteur divin et actif en termes de bénédiction et de malédiction dans ces passages, nous verrons que ce serait une grande erreur de penser qu'il s'agit du seul élément en jeu. La Bible révèle clairement que Dieu donna ses lois aux Israélites pour leur bien. Deutéronome 10 au verset 13. Elle n'était aucunement destinée à être un fardeau, voire 1 Jean 5 au verset 2 à 3. Même si le contraire a été enseigné à tort à beaucoup de gens. En fin de compte, Dieu voulait que les autres nations tirent des leçons et apprennent du mode de vie d'Israël. Parmi les différents objectifs pour Israël, Dieu voulait que leur exemple montre au monde un mode de vie qui fonctionne réellement et qui apporte des bénéfices réels et quantifiables. Comme Moïse l'a dit concernant ses lois, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Deutéronome 4, verset 6. D'autre part, Dieu avertit les habitants d'Israël que s'ils ne lui obéissaient pas, des plaies, de la fièvre et des maladies dégénératives s'abattraient sur eux, parmi d'autres malédictions. Deutéronome 28 au verset 15 à 28. Malheureusement, Israël fit exactement cela. Les habitants se détournèrent du Dieu qui les aimait et du mode de vie qu'il leur avait donné. Et malheureusement, ces malédictions s'abattirent sur eux. Bien que beaucoup de ces malédictions soient la conséquence de la condition spirituelle d'Israël et du rejet de son Créateur, la parole inspirée montre que certaines de ces malédictions étaient simplement les conséquences naturelles de leur désobéissance. Une relation de cause à effet. Par exemple, Dieu fit savoir à Israël, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, « Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. » Jérémie 2, verset 19. Il déclara aussi par la bouche d'Osée, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Osée 4, verset 6. Dieu dit qu'il donna à Israël les grandes choses de sa loi, mais elles sont estimées comme une chose étrange. Osée 8 au verset 12, Darby. Quelle description pertinente du monde actuel. Les conséquences de la violation des lois de la santé du Créateur font partie des châtiments endurés par l'ancien Israël rebelle. Mais de nos jours, beaucoup de gens répètent les erreurs de l'ancien Israël. Malheureusement, beaucoup de gens issus d'horizons différents, y compris ceux qui se qualifient de chrétiens, considèrent les lois de la santé données par Dieu dans la Bible comme des idées étranges et démodées qui ne sont plus valables à notre époque dominée par la science. Et pourtant, c'est tout le contraire, comme nous allons le voir dans les chapitres suivants. Chapitre 2, les lois alimentaires. Voulez-vous vraiment manger cela? Pourquoi Dieu a-t-il interdit de manger la chair de certains animaux? Devrions-nous encore suivre ces instructions de nos jours? Pour beaucoup de gens de nos jours, les lois alimentaires du Lévitique sont parmi les instructions les plus singulières dans la Bible. Depuis des millénaires, ces lois ont été un signe d'identité, séparant très clairement ceux qui suivent les directives bibliques du reste du monde. Lévitique 20, versets 25 et 26. Cependant, au fil des siècles, ces mêmes instructions ont été un grand sujet de controverse et de confusion au sein de plusieurs groupes religieux, y compris parmi ceux qui affirment tirer leur croyance du même livre, la Bible. Certains savants cassent ont reconnu que ces lois impriment la volonté de Dieu et qu'elles représentent des mesures sages, raisonnables et bénéfiques, montrant l'attention que Dieu porte à la santé de son peuple. Malheureusement, la plupart des gens, y compris les théologiens, ne comprennent pas, ou peu, les véritables raisons médicales derrière les instructions divines. Car la sagesse scientifique derrière les lois alimentaires bibliques n'est que rarement enseignée et expliquée. Au contraire, ces lois sont souvent considérées comme des vestiges des directives de l'Ancien Testament pour les Juifs, qui ne seraient plus en vigueur pour les chrétiens ou la population en général. Mais comme le fait remarquez le manuel biblique d'Erdmans, les listes d'animaux purs et impurs dans Lévitique 11 et Deutéronome 14 ont une signification qui est souvent ignorée, loin d'être un catalogue de tabous alimentaires basé sur des modes ou des tendances. Ces listes mettent l'accent sur un fait qui n'a été découvert que vers la fin du siècle dernier, fin du 19e siècle dans le contexte. Ces animaux sont porteurs de maladies dangereuses pour l'homme. Dans les faits, les animaux qualifiés d'impurs dans les Écritures sont toujours porteurs des mêmes maladies parasitaires qui sont dangereuses pour les êtres humains de nos jours. Malgré ces importantes réalités scientifiques, beaucoup de théologiens et d'érudits laïcs se réfèrent avec mépris aux directives diététiques présentes dans Lévitique et Deutéronome, en les qualifiant d'idées absurdes, révoltantes, arbitraires et irrationnelles, qui seraient issues de superstitions primitives et non de la pensée de Dieu. Il demande même, mais quel est le lien entre tout cela et la religion? La Bible révèle plusieurs raisons importantes justifiant les lois alimentaires. Dans l'Exode, nous apprenons que Dieu avait choisi la nation d'Israël afin de remplir un but spécifique. Exode 19, versets 5 et 6. Et les lois alimentaires participent à cet objectif divin. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai séparé des peuples. Vous observerez la distinction entre les animaux purs et impurs. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi, l'Éternel. Je vous ai séparé des peuples, afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, versets 24 à 26. Le fait de vivre selon les lois divines aurait dû permettre à Israël de devenir un peuple modèle, une lumière et un exemple pour le monde, pour les nations qui seraient témoins de leur bénédiction, y compris en matière de bonne santé. Deutéronome 7 au verset 15. Comme nous allons le voir, les lois alimentaires contribuaient non seulement à la bonne santé des Israélites, mais elles promouvaient également une gestion sage et efficace de l'environnement. Ainsi, la distinction entre les animaux purs et impurs joue un rôle important pour nous aider à cultiver et garder la terre en tant que gardien de la création divine. Voir Genèse 1, verset 28 et Genèse 2, verset 15. Pour bien comprendre la signification de ces lois, nous devons les examiner dans le contexte du dessein de Dieu pour l'humanité. Chez les herbivores, la majorité des lois alimentaires bibliques se trouvent dans Lévitique 11 et Deutéronome 14. Ces chapitres révèlent des informations très spécifiques, résumées en principes simples, faciles à comprendre, qui pouvaient être mises en pratique bien longtemps avant l'invention du microscope et la découverte des germes. De nos jours, les découvertes de la science moderne montrent combien ces lois sont bien fondées et importantes. Commençons par lire les instructions que Dieu ordonna à Moïse et à Aaron de transmettre aux Israélites. Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Lévitique 11, versets 2 et 3. Les mammifères se nourrissent de végétaux, les herbivores, correspondent à la description faite des ruminants. Ces animaux possèdent un estomac à quatre poches qui transforme l'herbe non comestible pour les êtres humains et pour d'autres animaux en produits nutritifs, riches en protéines, de bonne qualité, viande et lait, que nous pouvons consommer. Parmi ces animaux purs se trouvent tous les bovins, le mouton, la chèvre, le cerf, le chevreuil, le bison, l'élan ou l'original, l'antilope, la gazelle, le colibon et la girafe. Ce sont tous des herbivores ayant la corne fendue qui se nourrissent en broutant de l'herbe et des plantes. Ces directives sont pleines de bon sens dans le cadre d'une bonne gestion de l'environnement. De vastes régions du globe sont couvertes de grandes étendues, savanes, verdes, pampas, qui sont souvent des terres délaissées car les précipitations sont insuffisantes pour assurer des récoltes de maïs ou de blé. Les bovins, les ovins et les caprins ont la capacité de convertir les glucides et les protéines présentes dans les plantes en nutriments adaptés à l'usage humain, rendant productives des terres autrement inutilisables. Les animaux purs que Dieu permit à sa nation modèle de manger, caractérisés par le sabot fendu et le fait qu'ils ruminent, étaient destinés à produire une nourriture nutritionnelle, économique et écologique saine. Ces directives étaient un des bénéfices que Dieu voulait que le monde découvre à travers l'exemple de la nation d'Israël. Du porc, non merci. Les lois alimentaires au sujet des ruminants interdisent aussi de manger les animaux carnivores. Pour de bonnes raisons. Dieu créa les animaux impurs, impropres à la consommation humaine, pour des buts différents. Les carnivores et les prédateurs jouent un rôle important dans le contrôle des populations d'autres espèces animales. Par exemple, les loups et les pumas qui se nourrissent de cervidés contrôlent non seulement la taille des hardes, mais aussi leur état de santé en éliminant les individus âgés, malades ou infirmes. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas manger de carnivores. Ils peuvent se nourrir d'animaux malades et transmettre ces maladies aux humains. Le porc ou le cochon est clairement identifié dans les Écritures comme un animal impur et impropre à l'alimentation humaine. Lévitique 11 au verset 7 et 8, Deutéronome 14 au verset 8. Alors que certains théologiens déclarent « Nous ne savons pas pourquoi le porc a été interdit. » D'autres trouve de nombreuses raisons logiques en lien avec l'écologie, l'économie, la nutrition et la santé publique. À l'état sauvage, les cochons et les sangliers sont plutôt des animaux nocturnes qui fouissent le sol pour s'alimenter. Leurs habitudes nocturnes auraient dû limiter au maximum leur contact avec les êtres humains. Cependant, les hommes ont utilisé pendant des siècles des cochons domestiques comme éboueurs autour des campements. Le fait d'avoir un animal omnivore comme le porc qui peut croître très rapidement en mangeant toutes sortes de détritus, de charognes et de déchets produits par les humains, avant d'être tué pour sa viande, semble être une aubaine pour de nombreuses sociétés. Mais est-ce vraiment le cas? Les similarités entre le système digestif des porcs et des humains en font des compétiteurs écologiques pour les mêmes types de nourriture. Ainsi, une grande partie des ressources céréalières, dont le blé, le maïs et l'orge, est utilisée pour nourrir des porcs, afin de satisfaire les envies de la société de manger de la viande porcine, au lieu d'alimenter directement les humains, et de manière plus efficace. Mais les porcs ne sont pas les seuls animaux que la Bible nous ordonne de ne pas consommer. Les léporidés, lapins et lièvres, et les rongeurs peuvent transmettre la tularémie, aussi appelée fièvre du lapin, fièvre du lièvre, fièvre du lemming, aux humains qui entrent en contact avec leur chair ou avec les liquides corporels de ces animaux. Cette maladie bactériologique est endémique en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Elles peuvent également être transmises par des tiques ou des moustiques qui piquent des animaux infectés avant de piquer des êtres humains. Les directives bibliques interdisent aussi de manger des chauves-souris, des singes et des primates. Tous ces animaux ont été impliqués dans l'origine du virus Ebola, qui est apparu avec des effets dévastateurs en Afrique équatoriale où des chauves-souris et des primates sont consommés en tant que viande de brousse. Les chauves-souris et les camélidés ont également été impliqués dans le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, le MERS. Le fait de manger des animaux impurs, tels que les chauves-souris, les porcs, les civettes et d'autres animaux exotiques, mais impurs, est également lié aux origines possibles de nombreuses épidémies et pandémies de grippe ces dernières années, dont le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, la grippe porcine et le coronavirus qui a provoqué la pandémie de COVID-19 dans le monde. Le virologue Michael Lay a écrit, je cite, « Le fait que le SRAS et la plupart des virus de la grippe viennent de Chine méridionale n'est pas une surprise. En faisant référence aux traditions locales de manger des animaux sauvages, Lay explique que le SRAS aurait été transmis des animaux aux humains, après s'être mélangé avec un virus humain dans le corps d'un autre animal, comme le porc. Ne mangeons pas de ver. La trichomiose, aussi appelée trichinellose, est une des principales maladies transmises par le porc et d'autres animaux impurs. Elle est provoquée par un petit ver rond parasite qui se développe dans les tissus musculaires. Cette maladie, présente dans le monde entier, affecterait au moins 11 millions de personnes. Cela n'est pas surprenant, car le porc a longtemps été la viande la plus consommée dans le monde, avant d'être récemment supplanté par la volaille. La consommation annuelle moyenne de porc s'élève à 23 kg pour les Américains et 32 kg pour les Français. De nombreux animaux, carnivores et omnivores, autres que les porcs, sont également porteurs du parasite Trichinella spiralis. En plus du porc, les viandes d'ours et de morse ont également servi de source significative d'infections pour les humains. La liste des animaux impurs qui transmettent ce parasite aux humains comprend également les écureuils, les rats, les chats, les chiens, les lapins, les renards, les cougars, les lions et les chevaux. ce n'est ni un accident, ni une coïncidence, si les lois alimentaires divines interdisent la consommation de ces viandes. En notant que le judaïsme et la religion musulmane interdisent la consommation de porc, ce document rapporte que le risque d'épidémie est restreint dans ces deux populations, notamment en Syrie, au Liban et en Israël, où seuls les Arabes chrétiens et les immigrants thaïlandais peuvent s'infecter lors de l'ingestion de sangliers et de cochons domestiques. En Algérie et au Sénégal, la majorité de la population est musulmane. La trichinellose n'est documentée que chez les Européens venant en voyage dans ces pays. La ténia, ver solitaire, est un autre problème sanitaire grave qui affecte environ 100 millions de personnes dans le monde. Bien que la viande de bœuf et la chair de poisson contiennent des ténia qui peuvent se développer dans le système digestif humain et causer une gêne, le ténia du porc est beaucoup plus dangereux. Une fois dans l'intestin humain, la larve du parasite porcin peut migrer vers les tissus du cœur, des yeux et du cerveau, pouvant potentiellement causer la mort. Les infections au ténia du porc sont prévalentes dans les communautés sous-développées, avec des conditions sanitaires médiocres où les gens mangent de la viande de porc crue ou pas assez cuite, en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Afrique subsaharienne et en Asie. Le milieu médical conseille de bien cuire ses viandes pour éviter les infections parasitaires du porc et d'autres animaux impurs, mais la façon la plus efficace d'éviter ces maladies est de ne pas manger d'animaux impurs, qui ne ruminent pas et qui n'ont pas la corne fendue, comme Dieu l'avait enseigné à Moïse et aux Israélites il y a 3500 ans. De nos jours, si les gens appliquaient uniquement cet aspect des règles alimentaires bibliques, le fardeau mondial des maladies parasitaires diminuerait drastiquement en l'espace d'une génération. Ne mangez pas les éboueurs. Après avoir abordé les animaux terrestres propres à la consommation, la deuxième grande série d'instructions alimentaires divines concerne les créatures aquatiques. Les Écritures nous enseignent: voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Vous aurez en abomination tous ceux qui, dans les eaux, n'ont pas des nageoires et des écailles. Lévitique 11 au verset 9 et 12. Ces instructions bibliques données par Dieu ont pour but d'informer les êtres humains afin qu'ils sachent quels poissons peuvent être consommés en toute sécurité. Les poissons classés comme purs dans la Bible nagent librement dans l'eau. La plupart des poissons impurs sont soit tapis sur le fond, soit des prédateurs charognards. Les directives bibliques nous empêchant de consommer des poissons n'ayant pas d'écailles nous protègent afin de ne pas consommer la chair de poissons produisant des substances venimeuses. Notez la recommandation écrite dans un manuel de survie de l'armée américaine. La plupart des poissons venimeux ont beaucoup de caractéristiques physiques communes. Généralement, ils ont une forme étrange, comme une boîte ou presque rond, et ils possèdent une peau dure, souvent couverte de plaques osseuses ou d'épines, une bouche minuscule, de petites branchies, ainsi qu'une nageoire pelvienne petite ou inexistante. Ainsi, de nombreuses créatures marines venimeuses ne possèdent pas d'écailles. Par exemple, 4 espèces de requins, 58 de raies, 47 de poissons-chats, 57 de rascasses, 15 de poissons-crapauds. Les anguilles, des prédateurs charognards nocturnes qui mangent presque n'importe quel animal mort ou vivant, sont également impures car elles ne possèdent pas d'écailles. De plus, leur sang contient une substance toxique qui peut être dangereuse lorsqu'elle entre en contact avec les yeux ou d'autres membranes muqueuses. Les lois alimentaires bibliques interdisent également la consommation des coquillages puisqu'ils ne possèdent ni écailles ni nageoires. Mais pourquoi les crustacés, homards, crabes, écrevisses, crevettes, qui sont considérés comme des mets délicats dans de nombreux pays, sont-ils interdits? La réponse se trouve dans la compréhension du rôle naturel que Dieu a attribué à ces créatures. Le homard rampe la nuit sur le fond des océans. Ce charognard nocturne se nourrit de chair en décomposition, ainsi que d'organismes et de débris traînant sur le fond. Ils sont généralement capturés dans des casiers à homards appâtés avec des morceaux de poissons morts. Les homards ont de longues antennes et de petits capteurs semblables à des cheveux tout le long de leur corps, qui peuvent détecter des molécules chimiques spécifiques dans l'environnement, relâchées par des organismes en décomposition, et qui permettent aux homards d'identifier et de localiser la nourriture, même dans le noir. Les homards ont également été vus enfouis en poissons morts et le ressortir régulièrement pour le manger petit à petit. Les crabes sont aussi qualifiés d'éboueurs professionnels, car ils ingèrent à peu près tout ce qu'ils trouvent. Les crabes préfèrent les poissons morts, mais ils se satisfont de toutes les charognes. Les crevettes grises passent la journée dans la vase ou dans le sable des estuaires. Mais la nuit venue, elles se comportent comme des charognards, suspensivores, détritivores, c'est-à-dire se nourrissant de détritus et de matières en décomposition. Ces organismes ont tous été créés dans un but écologique très important. Ce sont les éboueurs des fonds des lacs, des rivières, des estuaires et des océans. Ils ne sont ni conçus, ni destinés à la consommation humaine. Le danger des coquillages. Les palourdes, les huîtres, les moules, les coquilles Saint-Jacques ont aussi été créés pour des raisons importantes et logiques qui expliquent pourquoi Dieu les a classés comme des aliments impurs et impropres à la consommation humaine. Ces créatures vivent dans les lacs, les cours d'eau et les régions côtières où elles jouent un rôle bien précis. Ces mollusques filtreurs et sédentaires filtrent de grandes quantités d'eau à l'aide de leurs branchies couvertes de mucus, lesquelles retiennent les particules nutritives, par exemple du limon, des débris de plantes, des bactéries, des virus dont ils se nourrissent. Ainsi, certains considèrent les moules et les organismes similaires comme les éboueurs ultimes de la mer. Ces organismes filtreurs sont les aspirateurs des milieux aquatiques. Leur rôle est de purifier l'eau. Lorsque vous comprenez pourquoi Dieu créa les coquillages, la raison pour laquelle ils sont impurs devient évidente. Il ne nous viendrait pas à l'idée de faire un repas avec le contenu d'un sac d'aspirateur ou avec les éléments retenus par le filtre de la hotte aspirante de la cuisine ou avec le contenu d'une fosse septique. Pourtant, c'est une bonne illustration du rôle des coquillages, puisque ceux-ci doivent filtrer de grandes quantités d'eau pour leur nutrition. Ils retiennent aussi les micro-organismes, bactéries et virus qui peuvent provoquer des maladies et qui sont néfastes pour les êtres humains. Quelle est la dangerosité des maladies transmises par les coquillages? Les huîtres crues, les palourdes et les moules très prisées des gourmets sont responsables de 85% des maladies causées par la consommation des fruits de mer. Les manifestations de choléra, de typhoïde, d'hépatite A, du virus de Norwalk, gastro-entérite, des salmonelles et des intoxications paralysantes ne sont quelques exemples des problèmes sanitaires liés à la consommation de ces mollusques. C'est peut-être là la raison pour laquelle le virus de Norwalk ressurgit de temps à autre sur les navires de croisière où ces mollusques sont habituellement servis. Les autorités publiques recommandent aussi que les femmes enceintes, les personnes âgées et les individus dont le système immunitaire est affaibli par certaines maladies, cancer, diabète et sida, évitent de manger et de toucher des fruits de mer crus. Ces situations dangereuses et potentiellement mortelles pourraient être évitées en connaissant et en observant les lois bibliques qui nous interdisent de manger des créatures aquatiques qui n'ont ni écailles ni nageoires. Les oiseaux et les insectes. Les derniers groupes d'animaux mentionnés dans les règles bibliques sont les oiseaux, les insectes et les reptiles. La plupart des volatiles impurs sont des oiseaux de proie, soit des charognards, comme les vautours et les mouettes, Lévitique 11, versets 13 à 19. Les oiseaux carnivores sont importants dans le contrôle des populations animales. La consommation de la chair et du sang de leurs proies fait que ces animaux sont des agents potentiels pour transmettre des maladies. Les oiseaux prédateurs se nourrissant de poissons, par exemple certains aigles, ont tendance à accumuler des taux élevés de substances toxiques dans leur corps. La plupart de ces oiseaux ne sont pas des sources importantes de nourriture pour les humains. Les reptiles font partie des animaux qualifiés d'impurs, Lévitique 11 au verset 29 et 30, ainsi que 42 et 43. Parmi les insectes, les seules espèces autorisées pour l'alimentation sont celles de la famille des sauterelles. Voici ceux que vous mangerez, la sauterelle, le solam, le argol et le hagab, selon leurs espèces. Versets 21 et 22. Ces créatures se distinguent par leurs pattes postérieures puissantes afin de pouvoir sauter. Et historiquement, elles ont été une source alimentaire populaire au Moyen-Orient. La consommation de graisse. Les lois au sujet des animaux purs et impurs ne sont pas les seules instructions bibliques au sujet de la diététique. Les Écritures nous disent non seulement quels animaux sont comestibles, mais aussi quelles parties de ces animaux peuvent être consommées ou non. La Bible montre clairement que lorsque nous mangeons de la viande, nous ne devons pas manger la graisse ni le sang. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique 3, verset 17. Pourquoi interdire ces deux éléments? Une étude attentive, à la fois dans la Bible et dans les ressources scientifiques, nous apporte des éléments de réponse. La graisse mentionnée dans le livre du Lévitique est la graisse viscérale, entourant le foie, les reins et les intestins. Cela inclut aussi la graisse visible qui peut être séparée de la viande. Lévitique 3, verset 3 à 16. Dans le cadre des sacrifices, ces graisses devaient être brûlées pour Dieu sur l'autel et il était interdit de les consommer. Lévitique 3, verset 17. Lévitique 7, verset 23 et 25. Mais pourquoi Dieu nous ordonne-t-il de ne pas manger ces graisses? A-t-il quelque chose contre les aliments savoureux? Saviez-vous que les graisses nommément citées et explicitement interdites dans Lévitique sont une marque de fabrique de la cuisine britannique, à la fois pour les pâtisseries sucrées et salées, ainsi que d'autres plats traditionnels? Ce n'est pas une coïncidence si la plupart des études médicales modernes montrent que les régimes riches en graisses, dont les graisses mentionnées dans Lévitique, sont aussi associés avec les problèmes de surpoids, l'obésité, les maladies cardiaques, plusieurs types de cancers et d'autres problèmes. Bien que certains débattent des détails complexes au sujet des bonnes et des mauvaises graisses, les instructions bibliques sont claires, faciles à suivre et elles n'ont pas changé depuis 3000 ans. Cependant, toutes les graisses ne sont pas mauvaises. Par exemple, la Bible n'interdit pas de consommer le persillé qui se trouve dans le muscle et qui donne la saveur à la viande. Cette graisse intramusculaire possède une composition différente des graisses interdites par Dieu et plusieurs études montrent qu'elle contient des acides gras bénéfiques qui ne se retrouvent pas dans les graisses interdites. Lorsqu'ils sont consommés avec modération, le lait, le fromage, le beurre et les yaourts peuvent être bénéfiques pour la santé. Ce qui est conforme au repas servi par Abraham et Sarah lorsqu'ils reçurent la visite de leur Créateur. Genèse 18 au verset 6 à 8. Bien entendu, la Bible n'interdit pas les fruits secs, les graines, les fruits, les légumes et les poissons purs. Tous ces aliments pouvant être des sources de graisse saine. Bien que les avis divergent à bien des égards, les nutritionnistes s'accordent à prôner la modération quant à la consommation de graisse. Mais ce principe ne semble pas faire partie des régimes alimentaires occidentaux avec leurs excès en termes de poissons sucrés, de montagnes de frites, d'aliments plongés dans l'huile et de hamburgers XXL. Globalement, la modération biblique est absente de leur menu. Pouvons-nous manger du sang? La consommation de sang est également interdite dans les lois alimentaires bibliques. Lévitique 3, verset 17, Lévitique 7, verset 26 et 27. Selon votre culture, vous serez peut-être surpris d'apprendre que le sang est utilisé pour préparer de nombreux plats traditionnels, qu'il s'agisse du boudin noir en France, black pudding en Grande-Bretagne, ou blutwurst en allemand, ou du tietkan en Asie. une sorte de soupe à base de sang frais, de porc ou de canard. Dans l'industrie agroalimentaire, certains encouragent l'utilisation du sang en tant qu'aliment, car ils considèrent que ce produit perdu des abattoirs, potentiellement un super aliment, est un moyen supplémentaire d'augmenter les profits pour l'industrie de la viande. Cependant, ces promoteurs font rarement mention des risques sanitaires associés à la préparation et à la consommation de ces produits à base de sang. Dans un rapport détaillé sur la mort de plusieurs personnes qui avaient consommé du Tiat Can lors des célébrations du Nouvel An lunaire vietnamien, Dr. Tran Van Kai de l'Association vietnamienne pour la science, la technologie et la sécurité alimentaire a fait remarquer le risque mortel de cette pratique. Le sang transporte de nombreuses maladies des animaux. Les gens mangeant du sang cru provenant de porcs malades peuvent attraper les bactéries du porc, des vers et d'autres maladies digestives. Et ceux qui consomment du sang de poulet malade peuvent être infectés par les virus H5N1 et H1N1. Bien que de nombreux théologiens croient que les instructions de l'Ancien Testament interdisant de consommer du sang ne concernent que les Juifs et qu'elles ont été abolies par Jésus-Christ, les apôtres du 1er siècle continuaient d'enseigner aux chrétiens du Nouveau Testament, y compris aux païens, qu'ils ne devaient pas manger de sang. Acte 15 au verset 20 et Acte 15 au verset 28 et 29. Comme Dr. Kai nous l'a rappelé, le fait d'obéir à cet ordre biblique en matière de santé peut être une question de vie ou de mort. Les sucres et les amidons. Faire preuve de modération et de discernement. Le même schéma se répète concernant la consommation de sucre et d'amidon. Le régime alimentaire occidental contient des quantités considérables de ces ingrédients sous des formes hautement raffinées, c'est-à-dire dépouillées des autres nutriments comme les vitamines, les minéraux et les fibres, d'où l'expression « calories vides ». De nombreuses études ont montré que la consommation régulière de boissons sucrées, de boissons énergisantes et d'aliments sucrés comme les céréales pour le petit déjeuner, les biscuits, les bonbons, les gâteaux et cette sorte d'aliments transformés pouvaient provoquer de graves problèmes de santé. Plus ces sucres ajoutés sont présents dans notre régime alimentaire, plus le risque est grand de souffrir de surpoids, d'obésité, d'hypertension, de diabète, de maladies cardiaques et d'autres conditions chroniques. Pourtant, la plupart de ces pathologies et de ces maladies chroniques pourraient être évitées en suivant simplement les directives bibliques concernant la consommation de sucre. Le livre des Proverbes parle à nouveau du principe de la modération. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. 25 à 16, le proverbe. Et il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Proverbe 25, verset 27. Bien avant que la société ne réalise que la consommation excessive de sucre était mauvaise pour notre santé, la Bible recommandait la modération et la maîtrise de soi. Deux qualités essentielles mentionnées ailleurs dans les Écritures. Par exemple, 1 Corinthiens 9 au verset 25 et Galates 5 au verset 22. Les amidons affectent le corps de la même manière que le sucre. De nombreuses études montrent les dangers d'un régime alimentaire saturé en amidons raffinés et en glucides simples, comme ceux qui se trouvent dans la plupart des marques de pain disponibles en supermarché. Ces dangers comprennent les maladies cardiaques, le diabète et plusieurs formes de cancer. En revanche, les aliments et les pains contenant des glucides complexes, moins raffinés et utilisant des céréales complètes dont les fibres, aident à réduire les risques pour ces mêmes maladies. Est-ce vraiment une coïncidence si Dieu donna à Ézéchiel une recette de pain complet, multicéréales à base de froment, d'orge, de fèves, de lentilles, de millet et d'épeautres? Ézéchiel 4, verset 9, et non une nouvelle recette de pain améliorée à base de farine blanche et raffinée. Ces principes bibliques au sujet des sucres et des amidons sont des recommandations utiles pour tous ceux qui veulent améliorer leur santé et prévenir les maladies. Les études montrent clairement que nous nous mettons en danger lorsque nous les transgressons. du bon usage de l'alcool. Beaucoup de gens pensent sincèrement que la consommation d'alcool est néfaste, voire que c'est un péché. Cependant, Paul recommanda à Timothée de boire un peu de vin pour ses maux d'estomac. 1 Timothée 5, au verset 23. Bien que nous ne connaissions pas tout le contexte, nous devrions aussi noter que le premier miracle effectué par Jésus fut de transformer de l'eau en vin au cours d'un banquet de noces. Jean 2, verset 1 à 11. Il n'aurait jamais fait cela si la consommation d'alcool était un péché. Ces dernières décennies, plusieurs mouvements ont claironné les méfaits de la consommation d'alcool et certains groupes religieux prêchent l'abstinence. Néanmoins, la recherche médicale a confirmé que la consommation modérée d'alcool avait des effets bénéfiques sur la santé pour certains individus. Ceux qui buvaient de l'alcool avec modération enregistraient régulièrement des taux plus faibles de crise cardiaque que ceux qui en abusaient ou qui n'en buvaient pas du tout. Des quantités modérées d'alcool peuvent aussi augmenter le niveau de lipoprotéines de haute densité, HDL, dans le sang, ce qui est bénéfique pour la santé. Dans le même temps, l'attitude envers l'alcool est tombée dans l'autre extrême. La consommation excessive est devenue la norme pour beaucoup de gens dans les sociétés occidentales, conduisant à des conséquences inévitables et tragiques. Mais encore une fois, la Bible donne des directives à ce sujet. La parole de Dieu déclare que l'ivrognerie est un péché, et ce comportement est condamné dans les Écritures. Proverbes 20 au verset 1, Éphésiens 5 au verset 18 et 1 Pierre 4 au verset 3. Les sacrificateurs avaient l'interdiction de boire de l'alcool avant d'officier, Lévitique 10 au verset 9, et les rois étaient mis en garde contre ces dangers, Proverbes 31 verset 4 et 5, afin que leur jugement ne soit pas affecté, tout comme il faut être extrêmement vigilant avant d'aborder une situation difficile. Combien de chagrins, de blessures, voire de décès auraient pu être évités si les instructions bibliques de boire avec modération avaient été respectées? Encore une fois, il n'est pas surprenant que les instructions bibliques au sujet du bon usage de l'alcool s'accordent avec les preuves scientifiques et qu'elles soient toujours valables de nos jours. La Bible explique que nous pouvons consommer de l'alcool, mais que nous devons avoir la force de caractère de l'utiliser à bon escient. Et l'abus d'alcool est interdit par Dieu. Jésus a-t-il aboli les lois alimentaires? Comme nous l'avons vu, Dieu a révélé des principes fondamentaux qui permettent de protéger l'environnement, de produire de la nourriture saine et nutritive et de réduire le risque de maladie pour les individus et les sociétés qui suivent ces instructions. En fait, lorsque les virus de la grippe ou des pandémies comme le COVID-19 émanent d'animaux impurs, nous voyons que l'obéissance ou la désobéissance aux lois divines de la santé dans une région du monde peut affecter la terre entière. Puisque ces lois sont logiques et bénéfiques pour nous, pourquoi tant de chrétiens croyant à la Bible souhaitent-ils les rejeter? En mettant de côté de grandes erreurs théologiques et doctrinales, beaucoup ont mal compris et mal interprété certains passages bibliques à leur détriment. Un examen attentif de ces passages révèle la vérité derrière certaines de ces interprétations erronées. Par exemple, dans Marc 7, Jésus expliqua à ses détracteurs pourquoi ses disciples mangeaient sans respecter le lavement des mains cérémoniel des pharisiens. Certaines traductions de la Bible ont ajouté des mots à la réponse de Jésus au verset 19, laissant ainsi à penser qu'il aurait aboli les lois alimentaires. La traduction œcuménique de la Bible, Tob, écrit que Jésus déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Mais cette traduction est erronée, car elle met dans la bouche de Jésus des paroles qu'il n'a jamais prononcées. En réalité, Jésus expliquait que les souillures physiques qui étaient avalées oralement et qui finissent par être éliminées ne rendaient pas un individu spirituellement impur, car cela n'entre pas dans le cœur et n'influence pas les attitudes, versets 18 à 23. Ces souillures passent directement par le système digestif et elles sont éliminées. Certaines traductions rapportent cette phrase avec plus de justesse. Parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais cela va dans son ventre. D'où ce qui était impur dans tous les aliments est séparé et jeté dans le lieu secret. Traduction, le maître de sa scie. Ce chapitre de Marc ne parlait pas du tout des lois diététiques concernant les animaux purs et impurs, pas plus que Matthieu 15 au verset 10 à 20, qui rapporte le même épisode, mais sans l'erreur de traduction. En fait, Matthieu 15 au verset 20 résume bien cet enseignement de Jésus. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Certains utilisent aussi la vision de Pierre, rapportée dans Acte 10, pour affirmer que les lois alimentaires ont été abolies. Dieu montre à Pierre un groupe d'animaux impurs et il lui dit par trois fois de manger. Pierre déclina à chaque fois car il croyait fermement que ces animaux ne pouvaient pas être consommés. Versets 13 à 16. Souvenez-vous qu'il s'agit du même Pierre qui avait été entraîné par le Christ pendant 3 ans et demi, qui avait entendu les déclarations de Jésus concernant le fait de manger sans s'être lavé les mains selon le cérémoniel pharisien. Cependant, des années plus tard, il croyait toujours que la consommation d'animaux impurs était interdite. Pierre s'interrogeait sur la signification de cette vision au verset 17, jusqu'à ce que 3 païens frappent à sa porte en demandant à ce que l'évangile leur soit expliqué, versets 21 à 27. Auparavant, Pierre ne se serait pas réuni avec ces hommes qui ne faisaient pas partie de la communauté de l'Alliance, car les Juifs considéraient les païens ou les gentils comme étant impurs. Lorsque les pièces du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Pierre, il en conclut « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Verset 28. Il comprit que Dieu voulait que l'évangile soit aussi prêché aux païens, afin qu'eux aussi puissent entrer dans l'église de Dieu, au même titre que ceux venant d'une famille juive. Pierre n'en conclut pas, ni dans ce passage, ni nulle part dans le Nouveau Testament, que les lois alimentaires avaient été abolies. En tirer une conclusion différente revient à interpréter la vision de Pierre différemment de Pierre lui-même. Pouvons-nous manger tout ce que Dieu a créé? Certains théologiens essaient d'utiliser 1 Timothée 4 au verset 1 à 5 pour faire croire que les lois alimentaires ne sont plus valides pour les chrétiens. Cependant, dans ces versets, l'apôtre Paul parlait des faux enseignants qui tentaient de promouvoir l'idée que les chrétiens seraient plus spirituels en pratiquant l'ascétisme et le végétarianisme, en s'abstenant d'aliments que Dieu a créés pour notre consommation. Lorsque Paul déclara que tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière, nous devrions nous demander où se trouve dans la Bible la description des créatures sanctifiées par Dieu ou destinées à la consommation humaine. La réponse se trouve dans Lévitique 11 et Deutéronome 14, où nous pouvons lire la liste des animaux purs. Mais où dans la parole de Dieu, Paul aurait-il pu trouver des animaux impurs qui soient sanctifiés par Dieu ou destinés à la consommation humaine? La réponse est nulle part. Paul ne mettait pas à l'écart les commandements divins, afin d'affirmer que les animaux impurs pouvaient désormais être consommés. Au contraire, il utilisa la parole de Dieu pour corriger ceux qui condamnaient les croyants mangeant de la viande, car ces accusations étaient fondées sur les ordonnances et les doctrines des hommes, pas sur les commandements divins. Colossiens 2, versets 21 et 22. Citer ces passages comme une excuse pour contourner les lois alimentaires bibliques revient à ignorer à la fois les instructions divines et les avantages qu'elles apportent en termes de santé publique. En outre, plusieurs passages de l'Ancien Testament traitant du royaume de Dieu à venir n'auraient aucun sens si Jésus avait aboli les lois alimentaires. Par exemple, Ésaïe écrivit une prophétie au sujet des actions du Christ à son retour, « Car voici l'Éternel arrive dans un feu ». Et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont, un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront. Ésaïe 66 au verset 15 à 17. Ésaïe déclara clairement que le jugement de Dieu s'abattra sur ceux qui rejettent ces lois inspirées, dont les lois alimentaires bibliques sur les animaux purs et impurs. Maintenant et après, une des conséquences les plus regrettables de l'aversion du soi-disant christianisme pour les lois alimentaires issues de la tourmente du deuxième siècle de notre ère est que des millions de gens ont souffert et sont morts de maladies qu'ils ont contractées en consommant des aliments que Dieu n'avait jamais prévus pour cet usage. La déclaration biblique claire et sans ambages, disant que Satan séduirait le monde entier, Apocalypse 12 au verset 9, est passée inaperçue ou a été opportunément oubliée. Cette séduction concerne aussi la croyance que les instructions alimentaires à la fois simples, pratiques, rationnelles et bénéfiques auraient été abolies et ne seraient plus en vigueur. Cependant, cela changera bientôt, lorsque Jésus-Christ reviendra sur la terre, un rétablissement de toutes choses sera enclenché. Acte 3, versets 20 et 21. Et toutes choses incluent les lois alimentaires bibliques du Créateur. Chapitre 3, l'exercice physique, un corps conçu pour bouger. Nous vivons peut-être dans l'ère la plus sédentaire de l'histoire humaine. Mais notre corps a été conçu pour bouger. L'exercice physique apporte de nombreux avantages et lorsque nous sommes inactifs, nous en subissons les conséquences. Un aspect important du message du Christ est qu'il était venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10 au verset 10. Cela se réfère assurément à la promesse de la vie éternelle, mais cela s'applique aussi à la vie abondante dont nous pouvons bénéficier de nos jours. Des milliers de gens ont découvert qu'en adoptant le mode de vie que Dieu leur propose dans sa parole et dans les enseignements de Jésus-Christ, ils bénéficiaient d'une vie physique plus abondante. Bien entendu, beaucoup pensent avoir une vie abondante grâce aux inventions modernes et au confort dont nous disposons au XXIe siècle. Dans une certaine mesure, c'est assurément le cas. Mais l'ironie est que certaines de ces inventions et de ces objets nous volent la véritable abondance que nous pourrions avoir dans cette vie. Les mollassons paient le prix fort. Alors que la société moderne est passée du travail à la ferme au travail en entreprise, ainsi que d'activités physiques vigoureuses en extérieur à des loisirs d'intérieur comme les jeux vidéo, la télévision, les smartphones et les heures passées sur Internet, notre civilisation est probablement la moins active de toute l'histoire de l'humanité. Cette épidémie d'inactivité a apporté une régression en termes de santé et une augmentation des maladies chroniques. De nombreuses études montrent que le fait de rester davantage assis et de bouger moins engendre un risque plus important de développer des problèmes de santé, dont l'obésité, l'hypertension, la dépression, la dégénérescence squelettique et l'atrophie musculaire. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime que 60 à 85% de la population mondiale ne fait pas assez d'activité physique et que le mode de vie sédentaire provoque 3,2 millions de décès par an, qui seraient évitables. Des titres accrocheurs annoncent que le manque d'exercice est aussi dangereux que le tabac et que les niveaux d'activité des adolescents, moins de 20 ans, sont similaires à ceux des plus de 60 ans. Une des conséquences néfastes de cette maladie moderne, le fait de rester assis, est une prise de poids et une obésité qui sont associées à l'inactivité. Ainsi, 52% des Européens sont en surpoids ou obèses. Cela concerne environ la moitié des adultes et un tiers des enfants. Aux États-Unis, plus de 30% des enfants et près de 70% des adultes sont en surpoids ou obèses. Globalement, près de 2 milliards d'adultes sont en surpoids ou obèses. Ce nombre a plus que triplé depuis 1975. Cela a conduit des responsables sanitaires à déclarer que nos sociétés affrontent une pandémie d'inactivité et d'obésité à l'échelle mondiale. Le plus tragique est peut-être que nos enfants soient les victimes de notre ère d'inactivité. Des études montrent qu'environ la moitié d'entre eux manquent d'exercice et que cela les empêche de bien développer leur cœur et leurs poumons. Et plus de 90% au moins un risque important de maladies cardiaques. La télévision, les jeux vidéo, le mauvais exemple des parents et la suppression des récréations dans de nombreuses écoles primaires sont autant de facteurs liés aux problèmes de croissance. Cette triste réalité, une épidémie globale d'inactivité associée à l'augmentation des maladies chroniques, est aux antipodes de la vie abondante que Jésus avait prévue pour chacun d'entre nous, conçue pour bouger. Un tel mode de vie sédentaire est en conflit avec la conception divine du corps. Tout montre que le corps humain a été conçu pour bouger. Et lorsque nous ne l'utilisons pas convenablement, nous ne devrions pas être surpris quand il commence à se détériorer. Dans sa sagesse, le roi Salomon a écrit « Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. » Proverbe 26 au verset 2. Et l'apôtre Paul fit écho à ce conseil en disant « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Galates 6 au verset 7. La loi de cause à effet est immuable dans ce monde et elle s'applique également à notre mode de vie sédentaire. Si nous restons affalés sur le canapé et que nous n'utilisons pas notre corps, nous devons nous attendre à continuer à assister à la détérioration de la santé humaine, comme nous le voyons dans les statistiques reprises par les journaux. Cependant, la plupart des maladies associées à notre mode de vie sédentaire pourraient être évitées, contrôlées, voire révoquées, si nous décidions sérieusement à embrasser la conception de notre Créateur, à nous lever et à être plus actifs. Notre corps de chair et de sang n'est pas destiné à durer indéfiniment. Hébreux 9, verset 27. Mais si nous l'utilisons de la façon dont il a été conçu, nous optimiserons la qualité et la durée de notre vie. Même les personnes âgées et handicapées qui disposent d'une mobilité réduite peuvent récolter les bénéfices lorsqu'elles font de leur mieux. Les bénéfices de l'activité. Des études récentes montrent que les bénéfices de l'activité physique sont extrêmement importants pour toutes les catégories d'âge. Des enfants et des adolescents actifs auront une meilleure santé, des os et des muscles plus solides, un bon sommeil, une meilleure humeur, moins de stress, un système immunitaire plus fort et un risque réduit de contracter de nombreuses maladies. Pour les enfants, l'activité physique renforce non seulement les muscles et la capacité cardio-respiratoire, mais aussi les capacités de réflexion, le travail de mémoire, les résultats scolaires et la confiance en soi. Les enfants actifs sont également moins sujets à s'impliquer dans des comportements destructeurs comme la cigarette et la prise de drogue. L'activité physique chez les adultes réduit le risque de développer de nombreuses maladies. Ils présentent des muscles et des os plus solides, un meilleur système immunitaire, moins de rhumes et de jours de maladie, une pression artérielle plus basse, un meilleur contrôle du poids, un risque réduit de maladies cardiovasculaires et d'AVC, un état d'esprit plus positif et la capacité à guérir plus rapidement des blessures. Quant à ceux qui ont une prédisposition génétique à l'obésité, l'exercice régulier semble diminuer d'un tiers l'impact de cette influence. La vie des personnes physiquement actives est vraiment plus abondante, comme Jésus l'avait prévu. Les personnes âgées qui commencent à faire de l'exercice ou qui restent physiquement actives, dans la limite de leur capacité, peuvent aussi en tirer des bénéfices. Elles peuvent maintenir une masse musculaire et une densité osseuse, les aidant à garder l'équilibre et à rester mobiles, réduisant ainsi les craintes de chute et de fractures. Cela leur permet aussi de marcher plus rapidement et de mieux monter les escaliers. L'activité physique régulière permet aussi de réduire le surpoids, de gérer le stress, d'améliorer son état d'esprit, de réduire les risques ou les effets du diabète, des maladies cardiovasculaires et des cancers. Les seniors qui restent actifs sont moins sujets à la dépression et ils nécessitent moins de soins médicaux coûteux. Leur espérance de vie augmente, leur qualité de vie s'en trouve améliorée et leur sentiment d'indépendance est renforcé. L'activité physique régulière semble également ralentir le processus de vieillissement normal. Même ceux qui sont alités ou en fauteuil roulant se sentent mieux s'ils s'impliquent dans un programme d'exercice physique. Un des aspects les plus intrigants de l'activité physique est son effet positif sur le cerveau. Il a été observé que les gens maintenant un mode de vie actif sont mentalement plus stables, ils gèrent mieux le stress, ils présentent de meilleures capacités mentales, créativité, mémoire, calcul, organisation et raisonnement logique. Et ils souffrent moins de dépression. Cela semble être lié au rôle de l'exercice dans l'oxygénation du cerveau, à la transmission plus rapide des impulsions nerveuses et à la meilleure diffusion des endorphines, des hormones associées à la bonne humeur et à la diminution de la douleur, qui permettent au cerveau de se relaxer naturellement. Allons-nous changer de direction? Un effort important a été entrepris pendant les dernières années du XXe siècle pour infléchir cette épidémie d'inactivité. De plus en plus de gens ont commencé à marcher, à courir, à nager, à faire du vélo ou à pratiquer une autre activité sportive. Certaines entreprises ont développé des programmes pour améliorer la santé de leurs employés. Aux États-Unis, il a été proposé que les étiquettes des produits alimentaires, au même titre que l'alcool et le tabac, avertissent que le manque d'activité physique nuit à la santé. En Europe, l'étiquetage nutritionnel Nutri-Score a fait son apparition sur les emballages des produits alimentaires et celui-ci pourrait devenir obligatoire au niveau européen. Fin 2019, la France, la Belgique et la Suisse l'utilisent déjà. De plus, l'Allemagne, l'Espagne et les Pays-Bas ont annoncé officiellement leur volonté d'adopter ce système. Désormais, les experts en santé publique promeuvent un changement vigoureux des attitudes, des habitudes et des comportements bien établis, afin que les gens et la société en général tirent leurs bénéfices qui découlent de l'activité physique régulière. Si nous voulons connaître la vie abondante dont Jésus-Christ a parlé, la plupart d'entre nous doivent changer notre mode de pensée, nos croyances et la façon dont nous menons notre vie quotidienne, y compris notre mode de vie physique. Changer des attitudes et des habitudes n'est pas facile. Les pensées et les comportements bien établis font de la résistance. Cependant, le changement est plus facile lorsque nous voyons clairement les dangers associés à nos anciennes habitudes, que nous comprenons les bénéfices liés à un changement de comportement et que nous apprenons quelles actions doivent être mises en œuvre pour remplacer nos anciennes habitudes. Tout cela nous indique clairement la voie à suivre. Les motivations de base sont également importantes si nous espérons atteindre des changements durables. La plupart des gens comprennent que l'exercice ou un mode de vie plus actif améliorera leur santé ou leur apparence physique. Mais cette connaissance est insuffisante pour les motiver à agir, ou s'ils commencent à le faire pour garder cette motivation. Nous avons besoin d'une motivation plus profonde afin d'effectuer des changements durables. Notre foi en Dieu et notre désir de lui plaire peuvent fournir une telle motivation. Lorsque les raisons physiques et spirituelles se combinent, un véritable changement peut avoir lieu, car nous sommes motivés par des croyances bien ancrées en nous au sujet de ce qui glorifie Dieu ou non. Paul déclara aux Corinthiens, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » 1 Corinthiens 6 au verset 19 et 20. Bien que ce passage fût écrit suite à l'immoralité sexuelle parmi les Corinthiens, il contient un principe général qui devrait attirer notre attention. Les chrétiens ont la responsabilité de faire de leur mieux pour prendre soin du corps que Dieu leur a donné. Cela peut devenir une grande source de motivation. Paul expliqua aussi que la croissance spirituelle est importante, tandis que l'exercice corporel est utile à peu de choses. Ou comme le traduit la Bible du Semeur, l'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. Voir 1 Timothée 4, verset 8. En effet, l'exercice physique régulier ne profite au corps que pendant cette vie. Mais, dans le même temps, l'autodiscipline requise pour s'exercer devient un élément de notre caractère, et le caractère durera pour l'éternité. Faire des changements dans notre vie, même pour des choses mineures, peuvent souvent paraître intimidants. Mais nous devons nous souvenir que le véritable christianisme ne consiste pas à être spectateur. C'est un mode de vie qui implique de croître, de faire des changements, de surmonter nos anciennes habitudes et de remplacer nos agissements destructeurs par de nouveaux comportements. Mais rien ne changera tant que nous ne commencerons pas à faire l'effort de nous améliorer. Quant à avoir un mode de vie physiquement actif, la bonne nouvelle est que n'importe quelle quantité d'activité régulière est mieux que rien. Peut-être aimeriez-vous commencer avec 30 minutes d'exercice par jour, mais cela semble trop. Songez par exemple à faire 3 fois 10 minutes dans la journée. Au lieu de prendre une pause café, allez marcher dans le voisinage. Vous vous sentirez probablement revigoré et l'exercice que vous effectuerez vous permettra de brûler des calories tout en renforçant votre cœur, vos poumons, vos os et vos muscles. Peut-être pouvez-vous vous entraîner avec un ami, avec votre chien ou en faire une activité familiale. Laissez vos enfants et vos petits-enfants voir votre exemple. Invitez-les à vous accompagner. Montrez-leur la marche à suivre. L'activité physique régulière changera la façon dont vous vous sentez et dont vous pensez, ainsi que votre apparence physique. Bien entendu, tout le monde n'est pas dans la même situation et vous devez faire preuve de prudence. Proverbe 22 au verset 3. Avant de commencer un programme d'entraînement physique, il peut être prudent de prendre conseil auprès de votre médecin. Il sera probablement très heureux de vous diriger vers les activités physiques les mieux adaptées à votre corps et à votre condition. Un autre aspect de marcher avec le Christ. Bien entendu, Jésus lui-même était familier avec l'activité physique. En grandissant, il a appris le métier de charpentier, Marc 6 au verset 3, et il passa des heures à scier, à poncer, à percer et à réaliser des assemblages au moyen d'un marteau et d'un ciseau à bois. En travaillant dans un territoire où il y avait peu de bois, il est probable que Jésus travaillait aussi la pierre. Cette sorte de travail, à une époque où les outils électriques n'existaient pas, impliquait une dépense considérable d'énergie. Avez-vous déjà serré la main d'un charpentier ou d'un maçon? Jésus était assurément fort et musclé, avec une bonne poignée de main. Jésus voyageait généralement à pied à travers le territoire montagneux de la Galilée, en effectuant les 3 voyages habituels par année vers Jérusalem pour célébrer les jours saints, les saisons de la Pâque, de la Pentecôte et des fêtes d'automne, Lévitique 23, Luc 2, versets 41 et 42. Cela représente environ 250 km aller-retour à chaque occasion. Si Jésus marchait la distance entière juste pour observer les jours saints, Jésus aurait donc marché plus de 700 km par an. En considérant que Jésus ait marché au minimum 1 km ou plus les autres jours, nous voyons qu'il aurait facilement pu marcher plus de 1000 km par an. Cela représente beaucoup d'activité physique. Aucun d'entre nous n'était présent pour attester des chiffres précis, mais l'idée que votre sauveur était physiquement actif peut être une plus grande motivation encore pour utiliser, dans la mesure du possible, le corps que Dieu vous a donné, en marchant dans un parc ou sur un sentier de randonnée. Peut-être vous rappellerez-vous de Jésus-Christ et de ses longues marches avec ses disciples dans la région montagneuse de la Judée. L'apôtre Jean nous dit même que nous devons marcher aussi comme il a marché, 1 Jean 2 au verset 6, une déclaration qui se référait clairement à son exemple de justice, mais qui peut aussi nous motiver dans notre exercice quotidien en imaginant également suivre ses pas sur le plan physique. Chapitre 4. Contagion, vaincre les maladies infectieuses. La Bible contient-elle des éléments clés importants qui permettraient de vaincre le défi mondial des maladies infectieuses? La religion pourrait-elle aider à promouvoir la bonne santé et à prévenir les maladies? Des dirigeants mondiaux perspicaces en politique et en médecine commencent à comprendre que davantage de dépenses, de médicaments, de recherches et de lois ne viendront pas à bout de la maladie. Les systèmes de santé de nombreuses nations se détériorent sous la pression de l'accroissement de la population et des ressources financières limitées. De nouvelles épidémies, comme la pandémie de COVID-19, mettent sérieusement à l'épreuve les systèmes de santé et les nations ont du mal à suivre. Dr Gro Harlem Brundtland, ancienne directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, a reconnu il y a quelques années que le but de la santé pour tous reste hors d'atteinte. Une illusion qui s'enfuit à mesure qu'on s'approche d'elle. Il est peut-être temps de nous demander pourquoi, au XXIe siècle, nous sommes toujours aux prises avec la maladie. Des solutions efficaces ont-elles été mises de côté? Avons-nous ignoré des moyens puissants fournis par Dieu qui pourraient permettre des avancées immenses dans la lutte contre les maladies infectieuses qui affectent et qui tuent des millions de gens à travers le monde? Un fléau mondial. Au début des années 1900, les maladies infectieuses étaient la première cause de souffrance et de mortalité en Amérique et en Europe. L'amélioration de l'hygiène ainsi que les découvertes médicales ont fortement réduit ces plaies sur ces deux continents. Cependant, la situation est frappante et alarmante en dehors des pays développés, alors que les maladies infectieuses, aidées par la pauvreté, ravagent un nombre immense de vies. Des maladies évitables et soignables comme le paludisme ou malaria, la diarrhée, la tuberculose et les maladies respiratoires tuent plus de 10 millions de gens chaque année dans les nations les moins développées, avec une surreprésentation chez les enfants. Le nombre de gens vivant avec et souffrant de ces maladies est vertigineux. Plus de 200 millions de gens contractent le paludisme chaque année, provoquant plus de 400 000 décès, dont 300 000 enfants de moins de 5 ans, principalement en Afrique subsaharienne. Selon les estimations, 3,2 milliards d'habitants, environ 40% de la population mondiale, sont exposés au risque de contracter le paludisme et d'en mourir. Dans les pays en voie de développement, les maladies diarrhéiques, qui sont tout autant évitables et soignables que le paludisme, sont une autre cause principale de mortalité et de handicap chez les enfants. La tuberculose est une des 10 premières causes de mortalité dans le monde, avec plus de 10 millions de personnes contractant la maladie chaque année et presque 2 millions de morts annuelles. La tuberculose est une des principales causes de mortalité chez ceux dont le système immunitaire est compromis par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH. Et près d'un tiers de la population mondiale est actuellement atteinte de tuberculose latente, c'est-à-dire que ces individus ont été infectés par la bactérie mais n'ont pas développé la maladie. À travers le monde, dans les régions tropicales et subtropicales, presque 3,9 milliards d'habitants risquent de développer la dengue transmise par des moustiques, plus de 300 millions de cas et 12 500 décès liés à la dengue ont lieu chaque année, et ces épidémies se répandent bien au-delà des tropiques. Le VIH, sida, est rapidement devenu la plus grande menace pour la santé, le développement économique et la stabilité nationale de nombreux pays africains et asiatiques. Depuis son apparition, il a emporté plus de 32 millions de vies. Aujourd'hui, environ 38 millions d'individus sont séropositifs au VIH et près de 2 millions de nouveaux cas sont rapportés chaque année. La bilharziose, schistosomiase, a infecté 207 millions de personnes et 200 000 en meurent chaque année, tandis que les infections parasitaires de l'intestin touchent 2 milliards de personnes par an. Plus de 190 millions d'habitants des régions rurales pauvres sont exposés à la bactérie du trachome. 2 millions sont affectés et c'est la première cause de troubles visuels et de cécité. Plus de 120 millions d'habitants sont exposés à l'onchocerciose, cécité des rivières, et 18 millions de cas sont recensés par an. La lèpre affecte encore 1 à 2 millions de gens, avec environ 200 000 nouvelles infections annuelles. Ces chiffres astronomiques illustrent à quel point les êtres humains souffrent du fléau des maladies infectieuses. Puis encore, au cours des dernières années, ce fardeau des maladies graves dans les pays en voie de développement a été alourdi par une autre tendance alarmante. Alors que les citoyens de ces nations adoptent de plus en plus les comportements et les pratiques alimentaires des nations plus développées, nous assistons à une augmentation des maladies cardiaques, des cancers et d'autres pathologies qui sont endémiques dans la majeure partie du monde développé. De façon tragique, le plus lourd tribut de la mortalité élevée, induite par les maladies infectieuses notamment, est porté par le milliard du bas, c'est-à-dire ceux qui vivent quasiment sans argent et qui sont pris dans le cercle vicieux de la pauvreté, maladie, conflit. Puisque beaucoup de pays dans ces régions les plus pauvres et les moins développées croulent sous le poids de la dette, des infrastructures chancelantes et de la corruption endémique, ils ne sont pas en mesure de gérer ces terribles problèmes, et ces populations continuent de souffrir de façon disproportionnée du fléau mondial de la maladie. Un médecin britannique avait écrit que l'Afrique dans son ensemble apportait un fardeau de la maladie plus lourd que n'importe quelle autre région du monde. Les habitants actuels de l'Afrique tropicale sont porteurs d'un plus grand éventail de parasites de l'homme que n'importe quelle autre population. Dans certaines zones d'Afrique tropicale, 60 à 90% de la population est infectée par plusieurs parasites. Afin de réduire et d'éliminer cet atroce fardeau de la maladie, nous devons comprendre et traiter les véritables causes du problème. Briser le cercle vicieux. Pour de nombreux professionnels de la santé, la seule solution au problème des maladies infectieuses est d'injecter encore plus d'argent pour développer de nouveaux médicaments et ouvrir des hôpitaux. Cela permet d'alléger les souffrances en traitant les symptômes, mais cela ne résout pas les causes sous-jacentes du problème. La plupart des maladies infectieuses qui affectent les pays en voie de développement sont associées à la pauvreté. Les conditions de vie surpeuplées et insalubres, le manque d'eau potable, l'incapacité d'évacuer convenablement les déjections humaines et les ordures ménagères, ainsi que le manque de protection contre les insectes porteurs de maladies, des moustiquaires, des répulsifs et des insecticides. Les personnes vivant dans la pauvreté n'ont même pas accès à ces ressources et ces équipements favorisant la santé. Et les gouvernements à court d'argent ne peuvent pas les leur fournir. Le problème est souvent aggravé par la corruption des dirigeants qui détournent à leur profit l'aide financière internationale. L'ignorance joue aussi un rôle crucial. Souvent, les habitants des régions rurales pauvres ne savent pas comment les maladies infectieuses se transmettent et à quel point il est simple de les éviter. Au lieu de reconnaître les véritables causes des maladies infectieuses, par exemple des bactéries, des virus, des protozoaires, des mouches et des moustiques, le blâme est parfois rejeté sur les mauvais esprits. Des millions de gens ne savent pas ou refusent d'admettre que les relations sexuelles et l'échange des seringues de drogue peuvent transmettre le VIH-SIDA. Beaucoup nagent, se baignent, lavent leurs vêtements et boivent l'eau de ruisseaux, de mares et de lacs contaminés par des excrétats d'origine humaine et animale. Il s'agit parfois du seul point d'eau disponible. La consommation non réfléchie d'animaux et d'autres organismes qui transmettent des maladies est également un facteur dans la propagation de pathologies graves. Faire des allers-retours vers des régions où pullulent des maladies, être en contact rapproché avec des personnes malades ou avec leurs effets personnels sont autant de raisons facilitant la propagation des maladies infectieuses. La motivation est un facteur essentiel pour promouvoir la santé et prévenir les maladies. Beaucoup savent qu'il est nécessaire de bien se laver les mains après avoir uriné ou déféqué, et avant de préparer ou manger un repas, mais ils n'agissent pas en conséquence. Changer les comportements individuels est un grand défi dans la lutte contre les maladies. Il est nécessaire de remédier à ces problèmes fondamentaux afin de pouvoir être délivré du fardeau de la maladie et de remporter la lutte contre ces pathologies. Une nouvelle perspective. Mais comment pouvez-vous éliminer la maladie et les conséquences de la pauvreté sans argent? Comment remédier à l'ignorance? Comment motiver les gens à penser et à agir différemment? Généralement, ce n'est pas le domaine d'expertise des médecins, des responsables de la santé publique, des ministres du gouvernement ou des économistes. Pourtant, les réponses à ces questions sont essentielles pour éradiquer le fardeau de la maladie. Afin d'accomplir cette tâche, autrement qu'en dépensant de l'argent pour gérer les conséquences du problème, nous devons modifier notre approche. Bien entendu, l'éducation joue un rôle majeur dans l'éradication de l'ignorance. Mais comment peut-on éduquer autant de gens sans construire plus d'écoles, embaucher plus de professeurs et augmenter le nombre de fonctionnaires? Les croyances d'un individu sont un autre facteur important pour motiver les changements de comportement. Nous sommes en droit de nous demander, existe-t-il des personnes qui sont déjà en place et qui seraient capables d'effectuer ce genre de travail? Croyez-le ou non, les dirigeants religieux occupent une position idéale pour éradiquer l'ignorance et promouvoir les comportements qui peuvent mettre fin aux maladies. Dans de nombreux pays, les dirigeants religieux sont en contact chaque semaine avec de grands groupes, comprenant généralement des gens de tous âges. Ils transmettent des valeurs qui influencent le comportement personnel. Un grand nombre d'entre eux sont déjà rémunérés par des organisations privées et beaucoup utilisent généreusement leurs efforts et leurs ressources pour apporter de l'aide, comme l'achat d'un moustiquaire ou le financement de citernes d'eau. Le grand problème est que la plupart des dirigeants religieux ne réalisent pas l'immense potentiel de leur position et ils n'ont pas été correctement préparés à occuper un rôle essentiel dans la prévention des maladies et la promotion de la santé. Comme les gouvernements et le secteur médical, la plupart des membres du clergé pensent que le rôle principal de la religion est de conforter les malades et consoler les familles endeuillées. Tout cela est utile. Mais il néglige un autre rôle que Dieu a attribué aux dirigeants religieux, un rôle clairement décrit dans la Bible. Des principes bibliques enseignables. Dans un chapitre précédent, nous avons décrit l'impact sur la santé humaine. Si tout le monde obéissait aux ordres divins concernant les animaux purs et impurs, décider de ne pas manger des animaux qui n'ont pas été conçus pour la consommation humaine serait, en soi, un grand pas en avant pour réduire les dégâts causés par les maladies infectieuses. Mais les directives bibliques ne s'arrêtent pas là. D'autres recommandations nous disent d'éviter de toucher des animaux trouvés morts et tout ce qui est entré en contact avec leurs cadavres. Voir Lévitique 11 au verset 32 à 40. Les récipients d'argile, une matière poreuse qui pouvait avoir été potentiellement contaminée, devait être détruit afin d'empêcher la propagation de la maladie. Ces principes bibliques sont conformes aux techniques microbiologiques en vigueur et ce sont des procédures importantes pour lutter contre les maladies infectieuses. Une des tâches des sacrificateurs était d'enseigner et d'expliquer ces principes. Ils devaient déclarer impurs ceux qui avait une maladie contagieuse, caractérisée par des éruptions cutanées, comme la lèpre, la rougeole, la variole et la scarlatine. Ces individus devaient alors s'isoler des autres pour empêcher la propagation de la maladie, voir Lévitique 13. Ces directives bibliques sont à la base des procédures de quarantaine médicale en usage depuis des siècles. Ce n'est pas pour rien que la distanciation sociale et la quarantaine ont été très tôt un puissant moyen de contenir la pandémie de coronavirus en 2020, car le principe sanitaire biblique de s'isoler de la maladie est efficace. Les directives bibliques mentionnent aussi d'éviter d'entrer en contact avec les effets personnels des malades qui pourraient transmettre des germes. Lévitique 13 au verset 47 à 59. Les objets contaminés devaient être lavés ou brûlés afin de détruire les micro-organismes. Les instructions sanitaires bibliques s'appliquent même aux habitants. Une maison attaquée par une moisissure ou un champignon devait être placée en quarantaine jusqu'à ce que les matériaux affectés soient remplacés et que les lieux soient raclés, avant de recevoir un nouveau mortier. Et si une maison ne pouvait pas être assainie, elle devait être démolie. Lévitique 14 au verset 33 à 48. Cette instruction serait un grand pas en avant pour les 25 millions d'habitants d'Amérique latine qui sont exposés à la maladie de Chagas qui infecte chaque année 8 millions de personnes, dont 10 000 en meurent. Cette maladie est causée par une morsure de punaise américaine, Triatome, qui vit dans les lézardes et les fissures des habitations délabrées. Une des tâches du sacerdoce lévitique était de promouvoir la santé et de prévenir les maladies en remplissant à la fois les rôles de contrôleur ou inspecteur, des travaux et d'enseignant en santé publique. La Bible reconnaît que les fluides corporels peuvent transmettre des maladies, Lévitique 15. Le contact avec des excréments humains, des coulements nasaux, des larmes, de la salive ou des serviettes souillées peuvent répandre des maladies infectieuses. Le trachome, la conséquence d'une infection bactérienne ainsi que la principale cause évitable de cécité, se propage au contact des humains souillés et par l'intermédiaire des mouches ophtalmotropes qui pondent leurs œufs sur des excréments humains ou animaux. Ceux qui entraient en contact avec les fluides corporels d'une personne malade devaient se laver les mains, laver leurs vêtements, se laver tout entier dans l'eau, puis s'isoler des autres personnes jusqu'au soir par mesure de précaution afin d'éviter de transmettre la maladie. Lévitique 15 au verset 11. Il ne s'agissait pas de simples lois cérémonielles. Le but de ces lois sanitaires était de promouvoir la santé et de prévenir les maladies. Une des directives bibliques les plus concrètes et les plus efficaces déclare que les excréments humains doivent être enterrés loin des habitations. Deutéronome 23 au verset 12 à 14. Cela empêche les déjections d'entrer en contact avec les gens, les mouches et les autres organismes qui peuvent transmettre des maladies. Cela préserve aussi la pureté des réserves d'eau. Porter des chaussures et ne pas utiliser d'excréments humains comme engrais sont autant de mesures préventives importantes. De nombreuses maladies comme la diarrhée, la dysenterie, l'ankylostomiase, l'ascaridiose, le choléra, l'hépatite, le trachome et la typhoïde résultent d'un contact avec des excréments humains. L'évacuation sanitaire des déjections humaines et l'accès à l'eau potable sont deux des moyens les plus importants pour prévenir les maladies. Certains affirment que si ces deux objectifs étaient atteints, presque 75% des maladies en Afrique disparaîtraient. Dieu ordonna aux dirigeants religieux de l'ancien Israël de promouvoir ces instructions afin de protéger la santé de la population. Malheureusement, les dirigeants religieux actuels ne se rendent pas compte qu'ils ont l'immense opportunité de délivrer les instructions bibliques qui encouragent des comportements permettant de vaincre les maladies. De la confusion au sujet de la circoncision. Jadis, Dieu instruisit Abraham et ses descendants, les Israélites, à circoncire tous leurs garçons 8 jours après la naissance. Genèse 17 au verset 12 et Lévitique 12 au verset 3. Il est intéressant de noter que cette instruction concorde avec des études scientifiques montrant que le système de coagulation sanguine des bébés ne serait pleinement développé qu'à partir du 8e jour, rendant hasardeuse une procédure chirurgicale avant cet âge-là en raison du risque hémorragique. Bien que certaines personnes bien intentionnées considèrent la circoncision masculine comme un acte de barbarie, la science médicale a montré que les avantages l'emportent sur les risques. Les garçons circoncis présentent un risque plus faible d'infections urinaires. Les hommes circoncis ont un taux plus faible de cancer de la prostate et de cancer du pénis. Les femmes monogames mariées à des hommes circoncis enregistrent un taux plus faible de cancer du col de l'utérus. Des études ont conclu que les hommes circoncis avaient moins de risques de contracter ou de diffuser le sida et les autres infections sexuellement transmissibles, car l'ablation du prépuce élimine un environnement où le virus pourrait se loger. Bien qu'acte 15 explique clairement que la circoncision ne soit plus une obligation spirituelle, les preuves médicales soutiennent assurément le fait que la circoncision, telle qu'elle est décrite dans la Bible, peut prévenir certaines maladies et promouvoir la santé. L'excision des filles, parfois appelée circoncision féminine, décrit un acte totalement différent. Cette pratique terrible n'est pas biblique et elle ne doit pas être confondue avec la circoncision des garçons mentionnée dans les Écritures, où seul le prépuce est enlevé. Au contraire, l'excision féminine n'est absolument pas un acte de circoncision, mais une pratique barbare au cours de laquelle les parties génitales de la fille sont atrocement mutilées. Il ne s'agit pas d'enlever un simple bout de peau, cette coutume n'a absolument rien à voir avec la circoncision biblique masculine. Les piercings et les tatouages. Bien que de nombreuses cultures païennes à travers l'histoire aient décoré le corps humain de tatouages, d'entailles, de scarifications et d'ornements destinés à agrandir les lèvres ou les lobes d'oreilles, ces pratiques altérant et déformant le corps, on le voit en poupe depuis quelques décennies dans les nations occidentales. Beaucoup le qualifient dards corporels, mais les risques sanitaires et les conséquences graves engendrées par les tatouages et les piercings sont rarement mentionnés ou considérés. Dieu a conçu notre peau afin qu'elle serve de barrière contre des organismes porteurs de maladies. Lorsque nous perçons cette barrière, nous créons des opportunités pour la bactérie et le virus de s'infiltrer dans les tissus sous-cutanés. De nombreux articles avertissent que les tatouages et les piercings, parfois appelés perçages corporels, augmentent le risque d'infection bactérienne cutanée, de granulome et de maladies transmissibles par le sang, comme le tétanos, les staphylocoques, l'hépatite et le sida, ainsi que des réactions allergiques aux matériaux et aux instruments eux-mêmes. De nombreux avertissements sont émis en particulier contre le fait de se faire tatouer ou percer pendant la grossesse à cause des risques d'infection et de la migration d'éléments toxiques des pigments, de l'encre du tatouage vers le fœtus. Alors que les tatouages et les piercings sont relativement bon marché, ils peuvent être très douloureux et coûteux à retirer, quand ils peuvent être enlevés. Même les tatouages temporaires aux aînés peuvent causer des problèmes et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM, les déconseille vivement, car ils peuvent contenir des substances toxiques. Dieu inspire à Moïse à instruire les enfants d'Israël, une nation que Dieu destinait à être une lumière et un exemple dans le monde, en leur disant « Vous ne ferez point d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. » Lévitique 19 au verset 28 d'Arbi. Les scarifications et les tatouages sont néfastes pour la santé, car ils augmentent le risque de maladies infectieuses en endommageant la barrière protectrice de la peau. Dieu a fait le corps humain à son image. Genèse 1 au verset 27. Il condamne ces coutumes religieuses païennes qui altèrent le corps. Les professionnels de la santé mettent en garde leurs patients au sujet des tatouages et des piercings pour une bonne raison. Ils sont dangereux pour la santé. Des lois morales pour prévenir les maladies infectieuses. La Bible définit le mariage comme étant l'union pour la vie entre un homme et une femme. Matthieu 19, versets 4 à 6. Et elle s'oppose fermement aux actes sexuels en dehors du mariage biblique, dont l'adultère, la fornication et l'homosexualité. Lévitique 18. Contrairement à la notion actuelle disant que les relations sexuelles débridées sont une libération, la Bible mentionne que celui qui commet un adultère est dépourvu de sens. Proverbe 6 au verset 32. Et que la promiscuité sexuelle entre individus non mariés est un péché contre leur propre corps. 1 Corinthiens 6 au verset 9, 1 Corinthiens 6 au verset 16 à 18. Romains 1 au verset 22 à 27. Dans le passé, les politiques des pouvoirs publics contre ces comportements étaient parfois basées sur la morale. Mais leur but était d'aider à prévenir les infections sexuellement transmissibles, dont le sida qui est parfois qualifié de fléau du XXIe siècle. Les efforts actuels pour ôter toute considération morale des écoles publiques et pour normaliser la promiscuité ne font qu'aider à la propagation des maladies épidémiques. L'adage « mieux vaut prévenir que guérir » a été ignoré, bien qu'il s'agisse toujours d'un excellent conseil, permettant de sauver de nombreuses vies et d'économiser de l'argent. Le fait de réserver les actes sexuels exclusivement entre un homme et une femme dans le cadre d'un mariage monogame sans tromperie, reste la méthode la plus efficace pour éviter de contracter et de répandre des infections sexuellement transmissibles, IST. Dieu a chargé les responsables religieux de diffuser ce message biblique qui est souvent ignoré de nos jours. Les études médicales révèlent pourquoi la Bible contient des avertissements puissants contre la promiscuité sexuelle qui est devenue la norme à notre époque. Les données épidémiologiques montrent que les homosexuels et les bisexuels masculins restent le groupe le plus affecté par le VIH, un groupe qui présente aussi une flambée inquiétante des autres IST, dont les gonococcies, blénorragie, la syphilis et la lymphogranulomatose vénérienne, chlamydia. Lorsque le VIH pénètre dans le corps, il affaiblit puis il détruit le système immunitaire de l'individu, déclenchant ainsi le sida qui rend la personne vulnérable à d'autres maladies et infections létales comme la pneumonie, la tuberculose, les lymphomes, le sarcome de Kaposi, un cancer des vaisseaux sanguins, le zona, l'encéphalite et la démence. Les études montrent aussi que plus vous avez de partenaires sexuels, plus le risque de contracter le VIH est élevé. Cela augmente ainsi le risque de développer d'autres maladies infectieuses et de mourir jeune. Puisqu'il n'existe aucun traitement capable de guérir du VIH-SIDA, les sources médicales admettent l'importance de cesser les comportements dangereux et à risque. N'ayez pas de partenaires sexuels multiples. Ne partagez pas d'aiguilles de seringue, notamment pour l'injection de drogue. N'ayez pas de relations sexuelles avec des prostituées. Et sachez que les aiguilles de tatouage ne sont pas toujours stérilisées. Ces conseils médicaux confirment la sagesse des anciennes instructions bibliques interdisant les comportements à risque qui engendrent de graves conséquences. La fornication, l'adultère, l'homosexualité et d'autres pratiques dangereuses. Le but avoué de beaucoup de principes bibliques est de prévenir les problèmes avant qu'ils n'apparaissent. Proverbe 22 au verset 3 déclare que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Du point de vue de la santé publique, la plupart des maladies pourraient être évitées en épargnant des vies et de l'argent, en prenant préalablement de sages mesures de précaution. La restauration à venir. Les Écritures montrent que Satan a séduit le monde entier, Apocalypse 12 au verset 9, et que les dirigeants sont souvent aveuglés au point de ne pas voir les solutions évidentes, Ésaïe 56 au verset 10, Matthieu 15 au verset 14. De nos jours, la plupart des théologiens, des pasteurs et des membres du clergé ignorent le rôle qu'ils devraient jouer dans la prévention des maladies et dans la promotion de la santé en enseignant aux gens à faire la différence entre les choses pures et impures à la fois dans l'alimentation et les comportements. Ézéchiel 22 au verset 26. Cependant, l'époque arrive où le monde entier apprendra à vivre selon les lois de Dieu et à en tirer les bénéfices. La Bible révèle que la création tout entière soupire et souffre actuellement. Romains 8 au verset 18 à 23. Mais l'époque du rétablissement de toutes choses est imminente. Acte 3 au verset 19 à 21. Jésus-Christ reviendra sur la terre pour établir le royaume de Dieu. Et la loi divine sera proclamée au monde entier depuis Jérusalem. Ésaïe 2 au verset 2 à 4, Ésaïe 9 au verset 6 et 7. Dans ce royaume à venir, l'Église et l'État seront réunis. Apocalypse 5 au verset 10. Jésus-Christ et les saints enseigneront aux gens à obéir aux lois et aux ordonnances de Dieu. Ésaïe 30 au verset 20 et 21. L'humanité fera alors l'expérience des formidables résultats liés à un changement de comportement. La lutte contre les maladies sera gagnée et elles commenceront à disparaître. Ésaïe 35 au verset 5 et 6. Jérémie 30 au verset 17. Bien que cela semble incroyable, c'est pourtant un aspect de l'Évangile, la bonne nouvelle annonçant l'avenir. Chapitre 5. L'esprit, les dimensions spirituelles de la santé mentale. La Bible contient des perspectives essentielles au sujet de la santé mentale, des informations qui ont été ignorées dans les ouvrages médicaux. Le fait de les mettre en pratique pourrait améliorer la vie de millions de gens. Les professionnels de la santé reconnaissent qu'être en bonne santé représente bien plus que le simple fait de ne pas être malade. Beaucoup comprennent qu'une bonne alimentation, de l'exercice régulier, l'accès aux soins médicaux ne garantit pas que vous vous sentiez épanoui et que vous affrontiez avec succès les défis de la vie. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition de l'OMS reconnaît que ce qui se passe dans le cerveau et dans l'esprit peut avoir un grand impact sur notre santé physique. Les manuels de santé mentionnent que les facteurs sociaux et psychologiques suivants contribuent tous à améliorer la santé. Pouvoir être autonome, exprimer ses émotions de la bonne manière, interagir efficacement avec les autres, ne pas se sentir à l'écart et gérer le stress. Les facteurs environnementaux, tels que de grandir dans une famille sûre, aimante et apportant du soutien avec des opportunités de défi et de croissance, peuvent aussi améliorer notre santé psychologique. Il est même démontré que le contact avec la nature peut faire une différence. Cependant, un des développements les plus intéressants et surprenants au cours des dernières décennies est la reconnaissance des dimensions spirituelles importante en matière de santé. Le concept de santé spirituelle reconnaît que les croyances et les valeurs peuvent influencer le comportement et la santé de façon très significative. Des centaines d'études démontrent que certaines croyances et pratiques religieuses ont un effet bénéfique sur la santé physique. Il est encore plus surprenant de constater que ces découvertes scientifiques récentes confirment la validité des anciennes instructions bibliques qui promeuvent la santé et qui décrivent les conséquences négatives qui ont lieu lorsque ces principes spirituels sont ignorés. Ces découvertes sont surprenantes car des attitudes anti-religieuses ont dominé la sociologie, la psychologie, la psychiatrie et la médecine au cours des derniers siècles. À partir du milieu du XIXe siècle, des philosophes sociaux ont affirmé que la religion perdrait sa légitimité et deviendrait obsolète alors que les sociétés deviendraient de plus en plus modernes et scientifiques. Sigmund Freud qualifiait la religion de superstition enfantine née d'un désir d'accomplir ses souhaits. Une thèse centrale de son livre charnière « L'avenir d'une illusion », de nombreux médecins se sont rangés à son avis. Par voie de conséquence, peu d'entre eux ont pris en compte le rôle de la religion pour promouvoir la santé et prévenir la maladie. Cependant, cette perspective biaisée devient obsolète alors que les preuves continuent d'émerger des études scientifiques expliquant pourquoi nous connaissons actuellement de grands problèmes de santé et de société. Le fardeau croissant des troubles mentaux. Dans notre monde moderne, des millions de gens sont quotidiennement aux prises avec des troubles mentaux, et ce nombre ne cesse d'augmenter. L'Organisation mondiale de la santé comptabilise les maladies mentales comme la troisième cause de handicap dans le monde, juste derrière les maladies cardiovasculaires et les maladies infectieuses. Alors que la dépression clinique arrive en huitième position dans les pays à faible revenu, elle se hisse en première position dans les pays aux salaires moyens et élevés, aux côtés des troubles d'anxiété, montrant ainsi que la modernisation et la richesse ne protègent pas contre ces conditions. Aux États-Unis, les maladies mentales sont la troisième cause d'hospitalisation chez les jeunes et les adultes 18-44 ans, et le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes 10-34 ans, et la dixième cause de mortalité dans l'ensemble de la population. Des études récentes montrent que la dépression et l'anxiété sont des problèmes de plus en plus graves sur les campus universitaires. Au cours des dernières décennies, les cas de dépression ont doublé et le nombre de suicides a triplé. Pourquoi les maladies mentales sont-elles aussi prévalentes et en hausse dans les pays riches et développés alors que ces personnes ont généralement accès aux meilleurs systèmes de santé au monde? Manque-t-il quelque chose dans la façon dont nous approchons ce problème omniprésent? Jadis, Moïse avait dit aux Israélites qu'ils seraient bénis s'ils obéissaient aux lois divines, mais que s'ils ignoraient ses instructions, ils en subiraient les conséquences. L'Éternel te frappera de délire. Deutéronome 28 au verset 28. Quelles instructions et quels exemples bibliques avons-nous donc ignorés et qui pourraient affecter la santé mentale de millions de gens à notre époque? Les découvertes de la science moderne apportent-elles des éléments de réponse? L'importance du contact avec la création. Au cours des derniers siècles, la tendance a été de quitter les régions rurales pour s'installer en ville, un phénomène appelé l'exode rural. En 1700, 85% de la population française vivait à la campagne. Trois siècles plus tard, à l'aube des années 2000, la population rurale ne représentait plus que 23% des Français. En 1851, près de 90% des Canadiens vivaient en région rurale, mais cette proportion est passée sous la barre des 20% en 2011. Aux États-Unis, la population vivant dans les zones urbaines est passée de 5% en 1790 à environ 80% de nos jours. Si la tendance mondiale se poursuit, 68% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines à l'horizon 2050. Une telle urbanisation mondiale est sans précédent dans l'histoire humaine. Bien que la vie citadine apporte certains avantages indéniables, elle apporte aussi des effets négatifs sur notre santé, particulièrement la santé mentale, si nous n'y prenons pas garde. En plus de la surpopulation, des embouteillages, du bruit, de la pollution et du stress liés à la vie urbaine, les études montrent que les citadins présentent un risque de troubles anxieux, 20% plus élevé, et de troubles de l'humeur, 40% plus élevé, que les personnes vivant dans les zones rurales. Ceux qui sont nés et qui ont grandi en ville ont deux fois plus de risques de développer la schizophrénie. Ce n'est pas une coïncidence si la hausse spectaculaire des maladies mentales graves correspond au mouvement de millions de gens depuis la campagne vers les zones urbaines. Les recherches actuelles commencent à faire le lien entre le déclin de la santé mentale et la perte de contact avec la nature. Dr. Mardi Townsend, professeur honoraire à la faculté de santé et de développement social de l'université d'Aiken en Australie, fait remarquer. De plus en plus de preuves montrent que le contact avec la nature a des impacts positifs significatifs sur la santé mentale et la déconnexion croissante avec notre environnement naturel exacerbe la hausse substantielle des maladies mentales. Ces observations sont confirmées par des centaines d'études qui documentent les conséquences d'un phénomène appelé privation de nature ou trouble déficitaire de la nature, qui est non seulement alimenté par les environnements urbains, mais aussi par les heures passées devant les écrans des appareils électroniques, téléphones portables, tablettes et ordinateurs. Une étude plus ancienne faisant le lien entre la nature et la santé avait comparé les réactions post-chirurgicales de patients hospitalisés qui voyaient des arbres à travers la fenêtre de leur chambre et d'autres qui ne voyaient qu'un mur. Ceux qui voyaient la nature enregistraient une bien meilleure convalescence que les autres. Des études plus récentes montrent que non seulement le fait de voir la nature, mais aussi de voir des photographies de la nature, par exemple des montagnes, des arbres, des cascades et des pâturages, et même d'entendre les sons de la nature, par exemple des vagues, de la pluie, le chant des oiseaux et des cris d'animaux, a des effets positifs similaires sur le corps et l'esprit. Il est prouvé que marcher dans la nature ou passer du temps dans un environnement champêtre réduit la tension musculaire et le stress, fait baisser la pression artérielle, le rythme cardiaque et le cholestérol, soulage la dépression et améliore l'humeur, réduit le risque de maladie mentale et augmente la durée de vie. Marcher dans un environnement urbain dense ne présentait pas les mêmes effets positifs. Ces chercheurs ont écrit « L'étendue des bénéfices pour la santé liés à la nature est impressionnante. Cela comprend la baisse de la dépression et des troubles anxieux, du diabète, des cancers, des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'attention et bien d'autres encore. De nombreuses raisons expliquent les bénéfices pour la santé résultant du contact avec la nature. Les plantes dégagent des phytoncides, des composés organiques antimicrobiens qui réduisent la pression artérielle et qui stimulent le système immunitaire. En forêt et à proximité des cours d'eau, l'air contient des ions négatifs qui réduisent la dépression et stimulent le système immunitaire. Les paysages et les sons de la nature apaisent le système nerveux sympathique, mécanisme déclenchant la réaction à combattre ou à s'enfuir, et stimulent le système nerveux parasympathique, mécanisme de repos et de digestion, ce qui aide à restaurer l'attention et favorise la guérison. Le contact avec la nature augmente les taux de DHEA, une hormone aux propriétés antidiabétiques, anti-obésité, antidépression et protégeant le cœur. Cela aide aussi à contrôler le taux de glycémie, à stimuler le système immunitaire, à produire des cellules anticancéreuses et à réduire les niveaux de protéines en lien avec le diabète, la dépression et les maladies cardiovasculaires. D'autres études révèlent que les enfants tirent de nombreux bénéfices du temps passé à l'extérieur en contact avec la nature, tels que l'amélioration de la mémoire, de l'apprentissage et des capacités à prendre des décisions, des taux plus élevés de persévérance et d'estime de soi, une baisse de la dépression et de l'anxiété, ainsi qu'une amélioration des troubles neurocomportementaux, TDA et TDAH. Une étude de grande ampleur a apporté que les personnes vivant dans des quartiers verts présentaient 20% de maladies en moins que ceux vivant dans un environnement moins verdoyant. Les conclusions de ceux qui étudient le lien entre la nature et la santé vont toutes dans la même direction. Le contact avec la nature est bénéfique pour les êtres humains et la déconnexion croissante des environnements ruraux qui ont accompagné l'exode rural a conduit à une augmentation des taux de maladies mentales, une situation à laquelle il faut remédier de toute urgence. Un flot de nouvelles preuves montre que les humains ne dépendent pas seulement de la nature pour des besoins matériels comme l'eau, la nourriture et le logement, mais aussi pour leurs besoins émotionnels, psychologiques et spirituels. Passer du temps dans la nature, et même le simple fait de voir la nature, est désormais considéré comme un facteur déterminant qui pourrait représenter une intervention puissante et économique en termes de santé publique, pour prévenir les troubles mentaux et fournir une meilleure santé à des millions de gens. Mais comment ces découvertes au sujet de la nature et de la santé mentale trouvent-elles écho dans les pages de la Bible ? La recherche moderne montre que de nombreux passages bibliques ne sont pas de simples histoires enfantines. Au contraire, ils fournissent des perspectives qui peuvent avoir un véritable impact sur la santé humaine. Genèse 2, versets 7 à 19, révèle que Dieu ne plaça pas Adam et Ève dans un appartement climatisé au dernier étage d'un gratte-ciel, dans un milieu urbain, mais plutôt dans un environnement rural, un jardin avec des arbres, de la végétation, des animaux et des cours d'eau. Dans le psaume 23, David associa le fait de passer du temps dans les verts pâturages près des eaux tranquilles avec le fait de se ressourcer. Le rôle de la religion. Les recherches confirment que la croyance religieuse est loin d'être une cause ou une forme de maladie mentale, comme certains détracteurs séculiers l'ont affirmé. Au contraire, elle permet de protéger contre les troubles mentaux et de promouvoir une bonne santé mentale. Comme nous l'avons déjà vu, les mouvements de population dans la campagne envers les centres urbains au cours des derniers siècles ont été accompagnés par une augmentation des troubles mentaux. Un éloignement de la religion a également eu lieu pendant cette période, particulièrement au cours des dernières décennies. Au cours de cette période, un glissement s'est produit depuis une société sociocentrique vers une société plutôt égocentrique ou individualiste, qui a aussi été accompagnée par une augmentation des troubles mentaux communs. La religion semble contrecarrer cette tendance négative en proposant un espoir, un soutien social et un sentiment d'appartenance qui est bon pour notre santé psychologique et physique. L'éloignement de la religion organisée qui met l'accent sur le lien social dans les congrégations a engendré un phénomène croissant de solitude que les spécialistes décrivent comme une épidémie mondiale qui pourrait provoquer autant de morts que l'obésité. En Amérique, plus de 25% de la population vit seule et cet isolement social double le risque de mortalité prématurée. Cependant, obéir aux instructions bibliques de s'assembler avec d'autres croyants, comme dans Hébreux 10, 24 et 25, où il nous est dit de ne pas abandonner notre assemblée, et l'ordre dans Lévitique 23 de nous unir régulièrement pour une sainte convocation pendant le sabbat hebdomadaire et les jours saints annuels permet non seulement d'améliorer la santé spirituelle des individus, mais aussi la santé mentale, et cela permet de s'éloigner des troubles mentaux. La dépression mentale grave est caractérisée par la tendance à se retirer des contacts sociaux et à s'isoler, voire à songer au suicide. Mais de nombreuses recherches décrivent le rôle significatif de la religion dans le traitement de la dépression. Ces études montrent que la thérapie comportementale enrichie par la spiritualité permet de réduire le désespoir et la détresse. Les patients déprimés qui ont de fortes croyances religieuses se rétablissent 70% plus rapidement que ceux ayant une foi plus fragile, et les patients déprimés affiliés à une religion faisaient moins de tentatives de suicide. Le lien entre l'augmentation des suicides et la baisse de la croyance religieuse a été détecté il y a plus d'un siècle. Les études récentes notent que les taux de suicide sont plus élevés dans les pays les moins religieux. D'autres études montrent aussi que les adultes qui sont très religieux, qui prient quotidiennement et qui assistent régulièrement à des assemblées religieuses sont plus heureux, plus engagés avec leur famille et plus susceptibles d'aider les autres. Cela fait longtemps que les valeurs chrétiennes de gratitude, de reconnaissance, de pardon et d'intérêt pour les autres sont reconnues pour contribuer à l'amélioration des relations sociales. La recherche moderne confirme que le fait d'exprimer une attitude de gratitude et de reconnaissance peut apporter de nombreux bénéfices liés à la santé. Des études de psychologie positive montrent que les personnes reconnaissantes prennent mieux soin d'elles-mêmes, font plus régulièrement de l'activité physique, ont une alimentation plus saine, gèrent mieux le stress, sont plus optimistes, ont un système immunitaire plus résistant et qu'elles ont des taux plus bas de maladies cardiaques et de cancers. Les adolescents reconnaissants qui apprécient ce qu'ils ont sont plus heureux, positifs, optimistes et ils ont un meilleur comportement. Ils ont des notes plus élevées, plus d'amis, dorment mieux et plus longtemps, sont moins déprimés, ont un système immunitaire plus résistant et ils présentent une meilleure santé en général. Un but et un sens. Dans une étude réalisée sur 4500 adultes, la faculté de santé publique de Harvard a trouvé que les gens géraient mieux le vieillissement s'ils avaient un but dans la vie. Ils ont découvert que les personnes vivant pour un but conservaient une meilleure masse musculaire, pouvaient marcher plus rapidement, présentaient des comportements plus sains, dormaient mieux, se sentaient mieux et vivaient plus longtemps que les individus qui n'ont pas ou peu de but dans leur vie. L'étude a révélé que les personnes qui maintiennent une perspective mentale plus positive et déterminée bénéficiaient de ressources contribuant à améliorer leur santé. Une autre conclusion de cette étude est un but dans la vie, une raison de se lever le matin, fournissait un sentiment de bien-être psychologique qui contribue à la bonne santé physique et mentale de cet individu. Découvrir un but dans la vie est aussi reconnu comme une étape essentielle dans les programmes de sevrage aux addictions. Les recherches montrent que les personnes ayant développé une dépendance à l'alcool, aux drogues ou à d'autres comportements destructeurs semblent souffrir d'une maladie spirituelle plus profonde. Leur vie est vide, frustrante et malheureuse, puisqu'ils n'ont ni but ni sens à leur vie et aucune raison de vivre. Ils essaient souvent de combler le vide avec des substances chimiques qui les déconnectent temporairement de la réalité, mais qui apportent davantage de souffrance qui, en fin de compte, détruit leur santé mentale et physique. De nombreux programmes de réhabilitation ont montré que le fait de raviver un but dans la vie était essentiel pour surmonter une addiction. Dr. Stanton Peale, psychologue clinicien, et conseiller en addiction a remis en question l'idée que les dépendances sont une maladie posée par une neurochimie anormale et un dysfonctionnement du cerveau. Il pense que les dépendances sont la conséquence d'un manque de but et de sens dans la vie de la personne. De nombreuses personnes ayant surmonté une addiction seront d'accord avec son affirmation. En général, trouver un sens et un but à la vie n'est pas considéré comme relevant du domaine de la médecine, mais plutôt de la philosophie ou de la religion. La psychiatrie et la psychologie peuvent être utiles, mais ces spécialités sont limitées à ce que nous pouvons voir et étudier au niveau physique. Les concepts spirituels sont hors de leur portée et ils sont souvent considérés comme de simples spéculations. Cependant, les spécialistes en santé mentale reconnaissent qu'avoir un but dans la vie joue un rôle central dans la prise de décision, en influençant notre comportement, en établissant des objectifs et des orientations dans notre vie et en donnant du sens à tout ce que nous faisons. Certains individus trouvent du sens à leur vie à travers les vocations qu'ils choisissent ou les responsabilités qu'ils portent. Mais de tels buts dépendent des circonstances et des perceptions qui sont temporaires et imparfaites. Seule la parole inspirée de Dieu peut nous fournir un but transcendant, véritable et éternel pour la vie qu'il nous a donnée. Si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet de cette dimension essentielle de la vie, demandez un exemplaire gratuit de notre brochure, Votre ultime destinée. Vous pouvez en faire la demande en écrivant à l'un de nos bureaux régionaux dont vous trouverez la liste à la fin de cette brochure. Récapitulons. Les recherches actuelles ont démontré que les personnes religieuses qui vivent selon les principes bibliques ont une vie plus saine et plus heureuse, ressentent moins d'anxiété et de dépression, gèrent mieux le stress et les situations difficiles, sont plus optimistes, ont plus d'espoir et ont davantage le sentiment d'avoir un but et un sens à leur vie. De tels résultats démontrent que Dieu enseigne bien plus qu'un ensemble de croyances dans sa parole. Il fournit un mode de vie. Le point de vue biblique fournit une perspective de vie qui est non seulement intéressante et rassurante, mais aussi qui améliore l'existence. Jean 10 au verset 10. Cette perspective présente dans les Écritures a malheureusement été perdue dans notre monde moderne, séculier et technologique. pour votre bien, ne laissez pas le côté de cette dimension dans votre vie. Chapitre 6. Guérison, un Dieu de miracles. En plus de fournir des lois et des principes pour la santé, se pourrait-il que Dieu intervienne également de manière surnaturelle à notre égard? Que révèle la Bible à ce sujet? Nous vivons à une époque qui encourage le sécularalisme, la laïcité et le scepticisme. Les détracteurs qui ont des préjugés contre le surnaturel affirment que Dieu n'existe pas, que la Bible n'est qu'un recueil de mythes et de légendes, que les miracles ne peuvent pas se produire, et que le fait de croire aux miracles surnaturels est plus courant parmi les nations ignorantes et barbares ou chez les personnes non plus civilisées et incultes. Bien que cette opinion soit largement relayée par les médias, par les institutions scolaires et parfois même par des théologiens, elle ne reflète pas ce que pense l'ensemble de la population. Aux États-Unis, une des nations les plus religieuses en Occident, des sondages révèlent que près de 80% des Américains croient en Dieu ou en une puissance supérieure, et 71% croient que la Bible a été inspirée par Dieu. Quant aux miracles, 51% des Américains croient que ceux mentionnés dans la Bible ont réellement eu lieu. 67% croient que des miracles peuvent se produire de nos jours, et 40% disent avoir expérimenté des miracles dans leur vie. Même dans une des nations les moins religieuses en Occident, plus d'un tiers des Français, soit 35%, affirment croire aux miracles selon un sondage de l'Institut TNS Sofres. Encore plus intéressant, 74% des médecins américains croient que des miracles ont lieu de nos jours et 55% disent avoir vu des patients dont la guérison semblait être miraculeuse. Puisque nous voyons que les idées des sceptiques au sujet de l'existence d'un Dieu surnaturel et que la validité des miracles bibliques sont en décalage avec les croyances et les expériences de millions de gens, y compris les opinions et les expériences de nombreux médecins, il est temps de considérer ce que la Bible révèle réellement au sujet de la guérison et des miracles. En effet, les déclarations claires des Écritures, les faits historiques et l'expérience de millions de gens, y compris des médecins, révèlent que les miracles existent. Bien que Dieu nous ait donné des instructions claires et précises sur la façon de procurer et de maintenir une bonne santé, nous affrontons malgré tout certains problèmes. Et lorsque cela se produit, nous pouvons nous approcher de lui pour recevoir une guérison miraculeuse. Qu'est-ce qu'un miracle? Comment définir exactement un miracle? Il s'agit d'un acte spécial de Dieu qui interrompt le cours naturel des événements. Un miracle peut ressembler à n'importe quel événement inhabituel, mais il a une cause surnaturelle. Il est accompli par la puissance divine, selon la pensée divine, pour un but divin, afin d'authentifier un message ou un but divin. Un miracle peut aussi être défini comme un événement ou une incidence dans le monde physique qui s'écarte des lois connues de la nature ou qui transcende notre connaissance de ces lois. Un événement extraordinaire, inhabituel ou anormal, provoqué par une source surhumaine. Un Dieu qui a créé l'univers peut assurément agir de façon surnaturelle dans son univers. Pour prouver que les miracles ne peuvent pas avoir lieu, il faudrait d'abord réussir à prouver que Dieu n'existe pas. La Bible décrit des dizaines d'événements miraculeux à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Les principaux arguments du christianisme sont dépendants de la valeur apologétique des miracles. Le fait que les miracles décrits dans la Bible ont réellement eu lieu. Les miracles démontrent la puissance d'un Dieu surnaturel. Si les miracles rapportés dans les Écritures n'avaient jamais eu lieu, il serait impossible de faire confiance à la Bible, ce qui est l'argument mis en avant par de nombreux détracteurs séculiers. Cependant, la plupart des auteurs des récits bibliques rapportant des miracles affirme avoir été témoin de ces événements, de Pierre 1 au verset 16, et beaucoup de ces mêmes témoins visuels sont morts pour leur conviction de la réalité de ces événements. En dehors de la Bible, aucun autre livre ne donne un aperçu de la façon dont une intervention miraculeuse et surnaturelle peut jouer dans la santé, la guérison et la maladie. Les Écritures révèlent que Dieu est un être d'amour et de compassion. 1 Jean 4 au verset 8, Psaume 86 au verset 5, Matthieu 9 au verset 36. Et ces qualités sont clairement visibles dans les nombreux miracles rapportés dans la Bible. Voyez comment Dieu permit à Sarah de concevoir miraculeusement un enfant dans sa vieillesse afin d'accomplir ses promesses faites à Abraham. Genèse 17 au verset 15 à 19 et Genèse 18 au verset 10 à 15. Il nourrit miraculeusement les Israélites pendant 40 ans dans le désert, après qu'ils eurent quitté l'Égypte. Exode 16 au verset 12 à 15 et Exode 16 au verset 32 à 35. Il fournit miraculeusement de la nourriture à Élie et il ressuscita le fils d'une veuve par son intermédiaire. 1 Roi 17. Il guérit Ézéchias et il lui donna 15 années de vie supplémentaires après les prières sincères que le roi adressa à Dieu. 2 Rois 20 au verset 1 à 6. Le Nouveau Testament décrit plus d'une trentaine de miracles effectués par Jésus. Presque un tiers de l'évangile de Marc est consacré à ces miracles. En plus de transformer de l'eau en vin, Jean 2 au verset 1 à 11, de calmer une tempête, Marc 4 au verset 37 à 41, et de marcher sur l'eau, Marc 6 au verset 48 à 51, Jésus guérit des maladies et des infirmités. Matthieu 8 au verset 1 à 17, il chassa des démons, Matthieu 9 au verset 32 et 33, ainsi que Marc 1 au verset 23 à 26. Il rendit la vue à des aveugles, Matthieu 9 au verset 27 à 31, et Marc 8 au verset 22 à 26. Il nourrit surnaturellement plusieurs milliers de personnes à deux occasions. Marc 6 au verset 35 à 44 et Marc 8 au verset 1 à 9. Un ministère apportant la guérison et la vie. Selon les Écritures, Jésus ressuscita au moins trois individus. La fille d'un dirigeant juif, Marc 5 au verset 22 à 24 et 35 à 43, le fils d'une veuve, Luc 7 au verset 11 à 17, et son ami Lazare, Jean 11 au verset 1 à 44. Bien entendu, la parole de Dieu rapporte que Jésus avait annoncé sa propre mort et il avait révélé qu'il serait ressuscité après trois jours et trois nuits. Matthieu 17 au verset 22 et 23. Le même récit historique mentionne que Jésus a été vu vivant pendant une période de 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Acte 1 au verset 3. Parmi les témoins, nous trouvons ses disciples, Luc 24, et au moins 500 personnes. Au sujet desquels Paul déclara que beaucoup d'entre eux étaient encore en vie lorsqu'il écrivit une de ses lettres. 1 Corinthiens 15 au verset 1 à 9. De nombreuses sources confirment les preuves bibliques et historiques de ce grand événement miraculeux. La Bible rapporte que Jésus chargea ses disciples de poursuivre le même ministère, de prêcher l'évangile du royaume de Dieu à venir. Marc 1 au verset 14 et 15, ainsi que Marc 16 au verset 15. Ainsi que de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux et de chasser les démons, en ajoutant « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement » Matthieu 10 au verset 5 à 8, ainsi que Marc 16 au verset 15 à 18. Jésus dit aussi à ses disciples qu'il ferait des œuvres encore plus grandes que les siennes. Jean 14 au verset 12. Nous lisons dans le livre des Actes que Pierre et Jean guérirent un boiteux à la stupéfaction des personnes présentes. Acte 3 au verset 1 à 10. Les apôtres accomplirent beaucoup de miracles et de prodiges qui attiraient les gens des alentours de Jérusalem alors que ces derniers amenaient leurs malades pour qu'ils soient miraculeusement guéris. Acte 5 au verset 12 et 16. Étienne fit de grands prodiges parmi la population à Jérusalem. Acte 6 au verset 8. Et cela engendra une persécution par les autorités religieuses qui étaient jalouses. Philippe apporta de la joie aux habitants de la Samarie en effectuant des guérisons miraculeuses et en chassant des démons. Acte 8 au verset 5 à 8. Saül, qui devient Paul, fut frappé de cécité par Dieu alors qu'il se rendait à Damas. Puis il fut guéri et il se convertit. Acte 9 au verset 1 à 22. Pierre guérit un paralytique à Lydde et il ressuscita une femme du nom Dorcas à Joppé. Un miracle dont la nouvelle se répandit rapidement. Acte 9 au verset 32 à 42. Paul chassa un démon à Chypre. Acte 13 au verset 6 à 12. Il guérit un boiteux à Lystre. Acte 14 au verset 12. Puis il ramena à la vie un garçon qui était tombé d'une fenêtre à Troas. Acte 20 au verset 8 à 12. Le récit biblique regorge d'exemples montrant qu'au moyen de la puissance de Dieu, Jésus-Christ et ses disciples guérirent miraculeusement des personnes malades et souffrantes. La guérison divine. En quoi tous ces miracles historiques concernent-ils les chrétiens de nos jours? La Bible affirme que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. Et elle nous rappelle que Dieu a déclaré « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Malachie 3, verset 6. Le Dieu qui a guéri ceux qui le cherchaient il y a plusieurs siècles est le même Dieu qui règne aujourd'hui dans les cieux. Dieu inspira le roi David à écrire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Psaume 103, versets 2 et 3. Beaucoup de gens reconnaissent que Dieu pardonne les péchés, mais peu semblent croire que Dieu nous offre aussi de guérir toutes nos maladies. Un de ses noms divins est l'Éternel qui te guérit, un titre qu'il attribue dans Exode 15, au verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Comme nous l'avons vu dans cet ouvrage, l'approche biblique dans le domaine de la santé implique d'apprendre à suivre les instructions que Dieu a révélées dans les Écritures. Et le fait de désobéir à ces lois représente non seulement un péché, 1 Jean 3 au verset 4, mais souvent cela entraîne aussi des conséquences physiques dans notre vie et sur notre santé. Beaucoup de gens semblent comprendre que le sacrifice de Jésus était destiné à rendre possible le pardon des péchés, mais peu font le lien entre son sacrifice et la guérison physique. Cependant, la Bible déclare sans embâche que c'est par ses meurtres issus que nous sommes guéris. Ésaïe 53 verset 4 à 5, ainsi que 1 Pierre verset 2 au verset 24. Il est important de noter que toutes les maladies, les infirmités et les blessures ne sont pas causées par le péché de la personne concernée. Le Christ montra cela clairement à ses propres disciples. Jean 9 au verset 1 à 3 et voir aussi Luc 13 au verset 1 à 5. Et le Créateur dit à Moïse qu'il était celui qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. Exode 4 au verset 11. Cependant, un certain nombre de maladies, d'infirmités et de blessures sont la conséquence du péché, comme nous l'avons montré dans les chapitres précédents. Mais dans tous les cas, Dieu propose sa guérison. L'apôtre Jacques exhorta les chrétiens. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens, le ministère de l'Église, et que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. » La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 14 à 16. Jacques encourageait clairement ses disciples à se tourner vers Dieu pour demander sa guérison en faisant appel au ministre de l'Église, une exhortation qui est encore valable de nos jours. Et celle-ci contient l'instruction de confesser ses péchés les uns aux autres, verset 16, c'est-à-dire de mettre en pratique le principe enseigné par Jésus-Christ pour que nos prières soient exaucées. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu 5, versets 23 et 24. Cette reconnaissance implique une responsabilité de notre part afin d'être en paix avec notre prochain et de prier les uns pour les autres. Cela ne signifie pas qu'un chrétien ne puisse pas consulter un médecin ou que le fait de chercher de l'aide et des conseils auprès des professionnels de la santé indique un manque de foi. Pas du tout. Bien que la connaissance humaine soit toujours imparfaite et incomplète, nous sommes bénis de nos jours de disposer d'une grande somme de connaissances sur le fonctionnement du corps humain. Mais quelles que soient les autres initiatives que nous prenons, ces versets nous disent qu'un véritable chrétien devrait chercher la guérison auprès de Dieu et qu'il devrait le faire à travers son ministère qu'il a désigné. Que faire si les ministres habitent loin de chez vous ? La véritable Église de Dieu fondée par Jésus-Christ met en pratique un principe inspiré dans les Écritures, Actes 19 au verset 11 à 12, lorsqu'il est impossible de rendre personnellement visite à une personne malade ou infirme, le ministre lui envoie alors un linge oint avec de l'huile. La foi et la perspective. La Bible montre que les guérisons ont souvent lieu chez des gens ayant une grande foi. Par exemple, Matthieu 8, au verset 5 à 10. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, Dieu permet qu'une personne remplie de foi endure une infirmité pour accomplir un but plus large et parfois, dans sa miséricorde, il intervient pour des gens qui ont peu de foi. Puisque Lazare était mort depuis 4 jours, il ne pouvait assurément pas pratiquer la foi lorsque Jésus le ressuscita. Jean 11 au verset 37 à 44 et voit aussi Ecclésiaste 9 au verset 10. L'apôtre Paul avait assurément une grande foi dans la capacité de Dieu à effectuer des guérisons miraculeuses, acte 19 au verset 11 et 12, et même à ressusciter les morts, acte 20 au verset 9 à 12. Cependant, il nous a dit qu'après avoir supplié 3 fois le Seigneur de le guérir, il finit par comprendre que le plan de Dieu n'était pas de le guérir à ce moment-là. De Corinthiens 12, versets 7 à 10, Darby. Dieu cherchait plutôt à produire davantage de fruits spirituels dans la vie de Paul, versets 9 à 10. Si nous gardons à l'esprit que la vision de Dieu est plus large que la nôtre et que nous devons chercher sa volonté, pas la nôtre, Matthieu 26, verset 42, alors nous le prierons d'intervenir lorsque nous souffrons d'une maladie ou d'une infirmité. Jésus enseigna à ses disciples, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Matthieu 7, versets 7 et 8. Jésus dit aussi que « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Jean 16, verset 23. Osterval. Et nous sommes exhortés à demander avec foi, Jacques 1 au verset 6, en sachant que Dieu répondra à sa manière et au moment qu'il aura choisi, et en se souvenant que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8 au verset 28, voire aussi 1 Corinthiens 10 au verset 13. Comment pouvons-nous savoir s'il entend nos demandes? L'apôtre Jean nous répond à ce sujet, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3 au verset 22. Cela signifie de se repentir, de transgresser ses lois, y compris ses lois et ses principes en matière de santé. Les Écritures montrent clairement que le Dieu de la Bible est un Dieu qui accomplit des miracles surnaturels. Les miracles mentionnés et préservés dans la Bible démontrent la puissance et la compassion de notre Père aimant. Un Père qui désire agir dans la vie de tous ceux qu'il aime. 2 Chroniques 16 au verset 9. Pour avoir une meilleure perspective à ce sujet et découvrir les informations contenues dans la Bible au sujet de la guérison ainsi que de la façon dont vous pouvez recevoir la guérison que Dieu propose, lisez notre brochure gratuite « Dieu guérit-il de nos jours ?». Vous pouvez en demander un exemplaire gratuit auprès du bureau régional le plus proche de chez vous, adresse à la fin de cette brochure. Vous pouvez aussi commander ou lire cette brochure en ligne sur notre site internet mondedemain.org. Conclusion. Un mode de vie qui fonctionne. Ferez-vous les bons choix qui apportent à la fois une bonne santé physique et spirituelle? Dans le récit biblique des deux arbres, Genèse 2 au verset 8 à 9 ainsi que Genèse 3 au verset 1 à 7, nous voyons que Dieu ne força pas Adam et Ève à accepter les instructions qu'il leur avait révélées. Ils choisirent d'employer des raisonnements humains qui s'opposaient aux directives divines. Afin de vaincre la bataille séculaire contre la maladie, chacun de nous doit faire des choix dès maintenant. Obéirons-nous à Dieu ou pensons-nous avoir trouvé une meilleure voie? Deutéronome 30 au verset 15 à 20, Matthieu 7 au verset 14. Ferons-nous preuve de sagesse dans nos choix en considérant les preuves, 1 Thessaloniciens 5 au verset 21, et en tirant les leçons de l'histoire? Nous avons vu que les maladies ont affecté les êtres humains à travers toutes les époques. Les civilisations, à la fois dans le monde antique et le monde moderne, n'ont pas réussi à endiguer la souffrance humaine causée par la maladie et les infirmités. L'histoire apporte que la plupart des cultures ont employé la même approche dans cette lutte ancestrale contre la maladie. Cette approche consiste à traiter les conséquences. À l'aide de médicaments, d'interventions chirurgicales, d'incantations, de sortilèges, et en implorant leurs dieux avec des offrandes sacrificielles. Parfois même de l'automutilation ou des sacrifices humains. Bien que la science médicale moderne ait fait des progrès considérables dans le diagnostic et dans le traitement des maladies au moyen de médicaments, de thérapies et de chirurgie, nous restons confrontés aux coûts financiers astronomiques des nouvelles maladies et à la résurgence d'anciennes infections. Cependant, la Bible nous montre une autre voie, à travers l'exemple d'un peuple avec une approche utilisant l'éducation et des valeurs pour prévenir la maladie. Au lieu de se reposer uniquement sur les traitements pour soulager les pathologies une fois qu'elles sont apparues, dans un contraste saisissant avec les autres civilisations anciennes, Dieu donna aux Hébreux un ensemble de lois et d'ordonnances qui devaient les mettre à part des autres nations, afin d'en faire une lumière et un exemple d'un meilleur mode de vie qui encourage la santé et qui prévient les maladies. Contrairement aux prêtres médecins des autres nations qui gardaient leur technique comme un mystère et un secret, les sacrificateurs de l'ancien Israël avaient reçu l'instruction de proclamer ces précieuses informations au plus grand nombre. Les lois bibliques de la santé représentaient une part importante des écritures hébraïques, de la religion et du mode de vie des Israélites. Des lois divines données par un législateur divin. L'histoire confirme que les lois bibliques de la santé étaient uniques et sans équivalent dans le monde antique. Cette directive était simple et facilement compréhensible. Elle couvrait un spectre étendu de problèmes de santé individuelle et publique, des principes qui étaient bien avant sur leur temps. Il était impossible de comprendre totalement la raison de ces lois avant l'invention du microscope, de la découverte des bactéries et du travail novateur des pathologistes au cours des derniers siècles. Des avancées qui ont apporté la preuve de la pertinence et de la validité actuelle de ces anciennes lois bibliques. Notre monde moderne a perdu de vue, et l'ancien monde païen n'a jamais compris, que Dieu est l'auteur des lois bibliques en matière de santé. La Bible révèle que Dieu ne change pas, Malachie 3 verset 6. Et cela signifie que ces lois fondamentales n'ont pas changé. Les lois de la biologie n'ont pas changé du jour au lendemain et elles n'ont pas cessé de fonctionner lorsque Jésus a été crucifié. Les facteurs provoquant ou prévenant la maladie à l'époque de Moïse agissent de la même façon de nos jours et les lois de la santé que Dieu donna à Moïse restent aussi efficaces qu'à son époque. Ne vous laissez donc pas berner par les arguments de ceux qui prétendent que les lois bibliques de la santé sont obsolètes, dépassées et qu'elles ne sont plus en application dans notre monde moderne. Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir les lois de Dieu. Matthieu 5 au verset 17. Elles sont le produit de la pensée de notre Créateur et notre Concepteur. Elles reflètent la volonté divine et elles font partie de son plan pour l'humanité. Si vous rencontrez des prêtres, des prédicateurs ou des professeurs vous affirmant le contraire, alors ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ésaïe 8 au verset 20. Un but formidable. Dieu prépare un peuple pour assister Jésus-Christ lorsqu'il changera le cours de l'histoire humaine. Le gouvernement de Dieu à venir éliminera le fléau de la maladie et enseignera un mode de vie qui conduit non seulement à la santé physique, mentale et spirituelle, mais aussi à la vie éternelle. Si nous soumettons notre vie à Dieu, en cherchant à vivre selon son mode de vie, sous l'autorité de Jésus-Christ, y compris en prenant soin du corps qu'il nous a donné, nous recevrons une récompense qui inclura le fait de régner avec le Christ en tant qu'enseignant. Apocalypse 5 au verset 10, ainsi qu'Ésaïe 30 au verset 20 et 21, qui expliqueront les lois divines, y compris ces principes bibliques importants en matière de santé, à toute l'humanité. Grâce à ces efforts, la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11 au verset 9. En commençant à saisir la portée du plan de Dieu pour l'humanité, vous verrez qu'il existe des raisons puissantes et enthousiasmantes d'apprendre à vivre selon les principes bibliques de la santé inspirés par notre Créateur. Les lois et les principes bibliques de la santé sont des éléments fondamentaux révélés par le Concepteur de l'humanité, destinés à promouvoir la santé et à prévenir les maladies. Ils font partie d'un mode de vie tout entier auquel Dieu appelle quelques individus au cours de cette époque. Un appel à se repentir non seulement des mauvais choix en termes de santé, mais aussi des mauvais choix spirituels et à se tourner entièrement vers Dieu au travers de la repentance du péché, du baptême et de la réception du Saint-Esprit divin. Si vous sentez que Dieu vous appelle, à la repentance et au baptême. Et si vous souhaitez en apprendre davantage concernant les voies divines, vous pouvez contacter le bureau régional le plus proche de votre domicile, dont vous trouverez les adresses sur notre site internet mondedemain.org ou à la fin de cette brochure. Un de nos représentants aura le plaisir de vous rencontrer au moment et dans le lieu qui vous conviendra. Nos représentants vivent depuis des années selon les préceptes physiques et spirituels présents dans la Bible et ils seront heureux de répondre à vos questions. Lorsque le mode de vie divin est correctement compris, expliqué et mis en pratique, il a le potentiel d'être une formidable bénédiction pour chaque être humain. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour établir le royaume de Dieu sur notre planète, la Bible révèle clairement que les lois divines, y compris les lois bibliques de la santé, seront proclamées au monde entier depuis Jérusalem. Ésaïe 2, verset 2 à 4. À mesure que les êtres humains à travers le monde apprendront à vivre selon ces lois simples, mais importantes et essentielles, leur santé s'améliorera et le fléau ancestral de la maladie commencera à disparaître. Ésaïe 35, verset 5 à 7. Mais vous n'avez pas à attendre cette époque-là. Vous pouvez adopter ce mode de vie dès maintenant, faire l'expérience de ses bénéfices et apprendre comment les enseigner, en mettant en pratique ces lois actives dans votre vie de tous les jours. Fin.